Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes à l'écoute d'RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal de 7h, c'est le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des routes transformées en patinoires. Attention, si vous prenez le volant ce matin, 75 départements sont en vigilance. Neige et verglas, branle-bas de combat. Plusieurs milliers d'agents seront mobilisés tout le week-end. Pas de place à la polémique. Notre nation doit être lucide et unie. La réponse de la ministre aux armées, Catherine Vautrin, défend le chef d'état-major aux armées après ses propos. Et un professeur d'école de maternelle menacé à Rennes par un parent d'élève, il refuse que sa fille est un homme comme enseignant.
C'est poétique, mais c'est galère. Du blanc sur nos routes ce matin.
Oui, des flocons sur plusieurs régions. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes également. Plus de 70 départements, je vous le disais, sont en vigilance jaune. Neige et verglas, c'est le cas de la Normandie où la neige est tombée hier. Conséquence ce matin, ça glisse. Et le week-end s'annonce particulièrement compliqué sur les routes. Alerte du ministre des Transports hier, Philippe Tavaro, invite les automobilistes à la prudence et annonce la mobilisation de 7700 agents déjà sur le pont Vincent Chevalier.
Parmi les départements concernés, la Loire, les prévisions annoncent des températures glaciales et quelques flocons du côté de Roanne, par exemple.
Dès lors qu'on a une alerte, on est beaucoup plus vigilant.
Frédéric Fournier est le chef du service du pôle voie publique.
On a une équipe de 4 agents qui sont d'astreinte toutes les nuits pour pouvoir armer 2 engins. Aujourd'hui, on a en stock 180 tonnes de sel.
Surveillance accrue aussi sur l'A89, particulièrement dans le Massif central où des opérations de prévention ont déjà eu lieu, selon Morgane Sauzet, chef des services exploitation et sécurité chez Vinci Autoroute.
Ce qu'on appelle du déneigement curatif, des équipages de chasse-neige qui ont raclé la route pour justement enlever la neige qui était sur la chaussée.
Avec ses 60 millions d'euros de budget pour la viabilité hivernale des routes, la Haute-Savoie est l'un des départements les mieux équipés, mais les automobilistes ont aussi leur rôle à jouer, rappelle Martial Sadier, le président du conseil départemental.
Il ne faut pas tout attendre des chasse-neige, mais que si on en montagne, il faut mettre des pneus neige. C'est quand même le premier vrai moyen de ne pas se retrouver dans le fossé.
Cette vigilance se prolongera au moins jusqu'à demain. Ce samedi devrait être la journée la plus froide de la semaine.
Face au narco-banditisme, la société marseillaise doit se réveiller. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice appellent ce matin un sursaut dans les colonnes de la Provence au lendemain de leur visite à Marseille à la veille d'une marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi assassiné la semaine dernière. Ils reconnaissent une bataille très très dure face au narcotrafic.
Et la réponse pourrait aussi venir de Bruxelles.
Le ministre des Affaires étrangères y a plaidé hier la mise en place d'un régime transversal de sanctions contre le crime organisé. L'idée, ce serait de taper au portefeuille des trafiquants, cibler les criminels actifs hors de l'Union européenne, geler leurs biens, les empêcher de revenir et les bloquer de transactions financière, si de telles sanctions venaient à être adoptées, Guillaume Bié, leur efficacité fait débat.
Oui, une telle mesure, même au niveau européen, ne serait pas assez pénalisante, explique Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime.
Je pense que c'est de nature à en gêner certains, mais après, beaucoup de gros narcotrafiquants et de grands blanchisseurs ne vivent pas dans l'Union européenne, et donc pour ces gens-là, ça n'aura aucun impact.
À l'inverse, saisir directement les biens des trafiquants à l'étranger, comme le ministre de la Justice vient de l'obtenir pour une 30aine d'appartements à Dubaï, ce serait beaucoup plus efficace pour lutter contre le blanchiment, souligne Bertrand Monnet.
Faire pression sur des paradis bancaires et avant tout sur Dubaï pour qu'ils saisissent notamment des actifs immobiliers. Ça, c'est très neuf et ça gêne beaucoup les narcos. Alors après, seul le gouvernement français n'arrivera pas à grand-chose, malheureusement. Mais une action concertée vraiment internationale sur ce sujet-là, à mon avis, oui, elle serait de nature à être très efficace et vraiment à gêner les blanchisseurs.
Un axe majeur de lutte contre le narcotrafic qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France.
Guillaume Bié, chef du service police justice RMC. Après la polémique, les clarifications, la ministre des armées vole au secours du chef d'état-major des armées 2 jours après ses propos. Il estimait que les Français devaient accepter de perdre des enfants en cas de guerre. Des mots sortis de leur contexte, dit Catherine Vautrin.
Nous devons anticiper, entraîner nos armées, nous réarmer, mais aussi il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité, nuire aux intérêts de notre pays.
Une manière de préparer les esprits à l'image du plan d'Emmanuel Macron qui pourrait annoncer dans les jours à venir un service militaire rénové sur base du volontariat.
Alors sur la base du volontariat, d'ailleurs, est-ce qu'il fallait le penser obligatoire ce service militaire à l'ancienne, si j'ose dire? On sera avec l'ancien directeur de l'école de guerre, le général Vincent Desportes, dans quelques toutes petites minutes, mais avec vous surtout au 32-16. Il est 7h05 sur RMC.
Pas de classe ce matin dans 4 écoles de Rennes en grève. Le corps enseignant défend un directeur d'établissement, professeur de grande section de maternelle menacé sur son lieu de travail par des parents. Ils refusaient qu'un homme enseigne à leur fille. Des menaces accompagnées de propos révélant de l'outrage sexiste, de la diffamation et du mépris. Martin Lange avec Solène Leroux pour RMC.
Le 10 octobre dernier, cet enseignant de grande section reçoit une famille qui lui demande de changer leur fille de classe. Inconcevable pour eux qu'elle soit encadrée par un homme. Michael Bezard, secrétaire départemental du syndicat des professeurs des écoles.
Il a refusé puisque c'est pas une raison valable.
Des raisons personnelles, sans motif religieux, assurait hier le ministre de l'Éducation. Le refus de changement de classe n'est en tout cas pas passé du côté de la famille.
Il était gravement menacé par des menaces de mort indirectes. Le collègue est profondément atteint, meurtri de cette situation. Il est arrêté depuis plus d'un mois.
Ses collègues réclament un changement d'établissement de l'élève. Fabrice Le Récif, secrétaire départemental de Force Ouvrière.
Je choisirais le genre, je choisirais la couleur des enseignants, leur origine. Tout ça est contraire à la laïcité. L'école publique, c'est pas une plateforme. On n'achète pas ce qu'on veut dans l'école publique. Il faut des actes forts de l'administration qui montre qu'elle protège ses agents et qu'elle lâchera rien. Au-delà des agents même, c'est la République qu'on défend.
Une plainte a été déposée. La famille, avec qui le rectorat a déjà échangé pour un rappel du cadre légal, a de nouveau été reçue hier soir.
Autre agression dans le Nord, celle d'un médecin. Conséquence, 3 antennes SOS Médecins à Tourcoing, Roubaix et Lille resteront portes closes jusqu'à demain 8h. Le directeur de l'antenne locale part d'une expédition punitive. Il dénonce des actes de plus en plus nombreux dans le département. Et puis cet incendie à Bellem, en marge de la COP30, obligeant l'interruption des débats pendant plus de 7 heures. Ils vont reprendre ce matin les débats, ce vendredi, dernière journée, pour tenter de s'accorder sur le financement et une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles.
Après 2 semaines de trêve internationale, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir.
Et ça débute par la réception de Nice qui reçoit Marseille avec un Benjamin Pavard, titulaire, recrue phare de l'été. Les débuts réussis du champion du monde sur la Canebière ont laissé place au doute, Florent Germain.
Oui, malchanceux et maladroit. Un mauvais placement et un ballon dévié qui font perdre l'OM à Lisbonne. Un but contre son camp et un pénalty concédé à Lens. Benjamin Pavard a souffert avec l'OM en octobre, mais les supporters marseillais gardent tous confiance en lui. Enfin, presque tous.
Ah, il est agaçant, hein, Ligue des Champions, il nous a tué le match. Oui, il défend bien, il a fait une grande carrière. Maintenant, on verra ce qu'il va faire à l'OM.
Titulaire à l'Inter, titulaire au Bayern, c'est pas l'OM qui le fera peur.
Pavard, ça reste quand même une bonne recrue. Recrue internationale, on a besoin de ça. L'année dernière, on a eu Rabiot, c'était un on n'a pas vu.
Dans le vestiaire, ses coéquipiers le soutiennent, notamment le milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia.
Je vois le même Ben que quand il est arrivé. Je le vois serein, on est content de lui. Il n'y a pas vraiment de sujet Benjamin Pavard.
L'entraîneur italien Roberto De Zerbi compte sur l'expérience du champion du monde 2018. Pavard doit garder le moral.
C'est un garçon sensible. Il a été affecté par ses 2 ou 3 actions malheureuses. On est tous avec lui. Il doit faire du Pavard et basta.
En l'absence en défense du taulier Naïef Aguerd, Benjamin Pavard aura ce soir l'occasion de se racheter à Nice.
Et le début de la 13e journée de Ligue 1, c'est ce soir 20h45 sur AMC. L'autre événement du week-end sur notre antenne, c'est le tout dernier match de la tournée d'automne du 15 de France. Ce sera face à l'Australie demain soir au Stade de France.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal. Vous êtes sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous. On accueillera Julien au 32-16 dans un instant, mais il veut nous parler du service militaire. Plutôt pour, il sera en direct du coup avec le général Vincent Desportes. Vous restez bien sur RMC, 7h08.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h12 sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous. L'armée française au cœur des débats cette semaine. On compte 200 000 militaires en France, 40 000 réservistes, la deuxième force militaire d'Europe. Mais il faut croire que ce n'est pas assez. La guerre change, les conflits et les tensions se multiplient. Bonjour général Vincent Desportes.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre. Le président de la République s'apprête à annoncer un nouveau service militaire sur la base du volontariat. Général, votre parti pris, nous avons besoin de jeunes qui s'engagent. On manque de 109 dans l'armée.
On manque. Notre armée n'a pas suffisamment de masse. Elle n'est pas suffisamment grande pour faire face aux défis qui viennent. Or, nous ne pouvons plus davantage faire appel aux professionnels. C'est une C'est un problème de capacité de recrutement dans une classe d'âge. Donc, il faudra trouver d'autres façons d'avoir des soldats, des marins et des aviateurs. Donc, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de faire appel au contingent. Maintenant, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir toute une classe d'âge qui sont 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes. Donc, il faudra faire appel à des volontaires qui feront le choix intelligent de venir servir la France pendant quelques mois, peut-être quelques années, contre évidemment un certain nombre d'avantages qui leur seront offerts.
Bon, on va détailler ensemble, général Vincent Desportes, vous avez déjà évoqué plusieurs aspects de ce débat, mais ce service militaire, c'est presque une arlésienne, hein. On a longtemps voulu le rendre responsable ou capable d'éduquer la jeunesse ou d'autres choses. Là, c'est différent, on parle de nos capacités militaires. Mais le débat, il revient régulièrement depuis 97. Alors, comme le réclame le Rassemblement National, pourquoi ne pas aller vers un service militaire, un service national obligatoire pour toute une classe d'âge, comme vous le disiez?
Eh bien, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait incorporer, aujourd'hui une classe d'âge c'est 400 000 jeunes hommes et 400 000 jeunes femmes, et que nous n'en avons pas besoin au titre de la défense, et donc on en aurait besoin effectivement comme un service d'éducation ou de rééducation. Maintenant évidemment ça coûterait une fortune, nous ne savons pas où les loger, nous avons vendu 90% de nos casernes pour 1 euro, s'il fallait les reconstruire ce serait des milliards. Donc nous n'en avons pas les moyens, ça demanderait également de recruter beaucoup et de former beaucoup d'officiers et de sous-officiers, nous n'en avons pas les moyens. Aujourd'hui, le problème, c'est la défense de la France. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et là, il faut trouver un certain nombre de réservistes ou de volontaires qui viendront. Mais nous n'avons évidemment pas besoin d'une classe d'âge entière sur les drapeaux.
Alors, Julien est en ligne avec nous. Général, on va l'écouter, on va l'accueillir. Julien, dans l'Allier, au 32-16, conducteur routier. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour, oui.
Vous êtes plutôt favorable, vous, à l'idée d'un service national relancé, comme s'apprête à le relancer Emmanuel Macron?
Comme il s'apprête à le lancer, on va dire que ça existe déjà. Le volontariat, c'est de l'engagement militaire, tout simplement. Ceux qui veulent être volontaires, c'est des gens qui s'engagent. Il n'y aura pas plus de personnes que tout de suite. Après, moi, je dis, ce qu'il faudrait faire réellement, c'est les jeunes entre 18 et 25 ans. Eh ben, si jamais ils travaillent pas ou ils font pas d'études, parce qu'on sait que dans le temps, ça a pu casser des carrières ou des études de certaines personnes, ils travaillent pas ou alors ils ont pas d'études, eh ben, au service militaire, au moins, celui qui veut pas faire le service militaire, il ira travailler. Et celui qui travaille pas, eh ben, il fera le service militaire.
Ouais. Enfin, c'est marrant parce qu'on a, alors là, l'actualité, Julien, et je vous garde en ligne avec nous et j'ai envie que vous parliez avec le général Vincent Desportes. L'actualité nous fait parler de l'Ukraine, de la menace, et on va y venir aussi au propos du chef d'état-major des armées, Vincent Desportes. Mais là, on retrouve encore ce rôle du service militaire. On a envie de lui donner un rôle d'éducation, on a envie de lui donner un rôle de creuset républicain. Là, c'est pas ce que vous dites. Là, vous dites on a besoin de troupes.
On a besoin de troupes, tout simplement. On a besoin d'une armée qui soit capable de faire face aux défis. Aujourd'hui, l'armée française est une très bonne armée, mais qui a été préparée pour une autre mission. Aujourd'hui, on risque, Gérald Mandon l'a dit, et tout le monde le dit, on risque de rentrer dans une guerre tout à fait différente. Et si nous ne sommes pas prêts à cette guerre, nous serons obligés de la faire. Donc, il faut augmenter le volume des forces armées. Il n'y a pas d'autre choix.
Et Julien, vous avez fait l'armée, vous, Julien?
Non, moi j'étais la première session à faire la journée d'appel. Moi, j'étais la première session à faire la journée d'appel.
Je vois votre âge, on est de la même génération, mais certains se sont engagés justement. Je pense à beaucoup de témoignages de conducteurs routiers qu'on a pu recevoir ici au fil des années, des conducteurs routiers qui ont passé leur permis routier dans l'armée justement. C'est aussi une forme de formation qui leur a été offerte ainsi. Julien, restez avec nous, on va réécouter le chef d'état-major des armées, le plus haut gradé, un de nos militaires, qui a fait polémique cette semaine avec cette petite phrase, il a au moins lancé le débat. Mardi, c'était au Congrès des maires de France, on réécoute.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Que nous, Français, nous soyons prêts à perdre nos enfants. Général Vincent Desportes, vous comprenez l'émoi que ça a suscité?
Alors, je comprends les mots, comme l'a dit fort justement notre ministre de la Défense, c'est des mots qui sont sortis de leur contexte. Qu'a dit le général Mandon? Il l'a dit comme il l'a dit, mais il a dit au fond, aujourd'hui, nous devons être prêts à défendre nos valeurs, nos façons de vivre, etc. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, si vous ne voulez pas le faire, alors vous êtes en danger, alors vous risquez d'être attaqué. Donc aujourd'hui, vous savez, les Américains disent, la liberté n'est pas gratuite, et je crois que c'est important. important. Nous sommes aujourd'hui dans un, où nous sortons d'un paradis artificiel où nous pensons que la démocratie est une donnée, que la liberté est une donnée. Eh bien non, elles ont un coût, il faut la défendre. Et ce coût, effectivement, bah, il est économique. Et puis, quand on fait la guerre, quand on est prêt à faire la guerre, eh bien forcément, la guerre, il y a toujours des morts. C'est exactement ce sens-là.
Mais on est où là, en ce moment, dans l'histoire, dans le contexte, dans le Parisien ce matin, je lisais une source à Matignon, une source anonyme, qui dit on n'est pas en guerre, mais on n'est plus vraiment en paix. C'est la guerre, général.
On n'est pas vraiment en paix, c'est-à-dire qu'on est dans un état de pré-guerre, si vous voulez. On a été comme ça au début des années 1900, on a été comme ça juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et les Français n'y ont pas cru.
Mais alors comment, en fait, général Vincent Desportes, vous parlez à un civil qui n'a jamais porté le moindre uniforme. J'ai envie de comprendre, parce que la question revenait assez souvent hier aussi dans les messages, j'ai envie de comprendre comment on programme une guerre. Il y avait un auditeur qui nous disait on programme la fin d'un crédit immobilier, on programme un mariage ou l'arrivée d'un bébé, mais comment on est capable de dire que dans 3-4 ans, on va avoir un choc, on va avoir une guerre de haute intensité. On a du mal à comprendre ça, général.
Eh bien, je vais vous l'expliquer. D'abord, tous les services de renseignement européens qui sont différents et qui ont des sources différentes disent oui, il y a un risque et ce risque est grand. Et on ne peut pas ne pas prendre en compte le pire. Et donc, il faut se préparer à ce pire. Pourquoi 3 ou 4 ans? Eh bien, pour une raison simple. Alors, c'est un pari, c'est une hypothèse. Mais on peut penser que la guerre en Ukraine se terminera dans l'année à venir. Enfin, tout le monde peut le souhaiter. Et vraiment, c'est souhaitable. Et donc, on sait que pour l'armée russe, il faudra 2 à 3 ans pour se remettre en état de reprendre son agression vers l'ouest sur un des points faibles de l'Europe, qui pourrait être les Pays-Baltes, par exemple. Et donc, on a 2 ou 3 ans. Nous-mêmes, d'ailleurs, il nous faut quelques années pour nous mettre à la hauteur de la menace. Donc, ce qui est raisonnable, en tout sens du terme, c'est dans 2 ou 3 ans, puisque c'est possible, d'être suffisamment dissuasif pour que cette guerre n'arrive pas. Et si nous ne sommes pas assez dissuasifs, alors effectivement, comme le dit le général Mandon, nous sommes en risque.
Ouais, donc, il faut montrer les muscles, c'est ce que disait aussi le général Dominique Trinquant ici sur ce plateau hier. Se montrer fort pour éviter la guerre aussi. Alors on parle de la Russie de 2030, d'un choc à venir, d'un conflit de haute intensité. Dernière question, parce que Fabrice Mandon, le chef d'état-major des armées, explique aussi, dans ce même discours, et ça on l'a moins remarqué, qu'au Pentagone, aux États-Unis, les horloges indiquent un compte à rebours vers 2027 et une probable invasion de Taïwan par la Chine. En fait, c'est pas la guerre, c'est la guerre mondiale qu'on est en train d'organiser là.
Eh bien, vous savez, hélas, nous ne sommes pas sortis, je l'ai dit, du paradis artificiel dans lequel nous avons vécu. Nous sommes revenus à la normalité historique. Et la normalité historique, c'est que ce n'est pas la paix qui est éternelle, c'est plutôt la guerre. Et que le monde, en fait, a été produit par des rapports de force et des guerres. Eh bien, pendant 80 ans, le monde a été régulé, il y a eu un gendarme du monde, et ça ne s'est pas passé comme ça. Eh bien, aujourd'hui, par faiblesse, par évolution, eh bien, on est revenu à une normalité qui, je vous rappelle, a fait 80 millions de morts au XXe siècle. Et donc, on l'a évité, ce retour, pendant 80 ans, et aujourd'hui, nous sommes replongés dedans. Eh bien, effectivement, nous devons retrouver les moyens de ne pas être blessés ou détruits par cette normalité.
D'être prêt au moins, général Vincent Desportes, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage ce matin. Je pense que nos auditeurs en avaient besoin. Ancien directeur de l'école de guerre, l'armée au cœur des débois, Didier François, expert défense de BFM TV, sera l'invité du face-à-face à 8h30. Et vous, j'allais dire bon réveil quand même. On vous annonce la guerre mondiale. Bon réveil quand même, mais ça vous fait réagir, j'en suis certain. Vous composez le 32-16 ce matin. Merci à Julien qui était en ligne avec nous sur le service national. Il est 7h22.
RMC, Apolline Matin.
7h23 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
On révise les classiques. Arthur, Carlos évidemment. D'après des scientifiques de l'université d'Oxford, le baiser sur la bouche se pratiquait déjà il y a 2 100 000 années. Et pour vous s'embrasser, c'est la raison d'être de l'humanité.
Et oui, cette étude en est la preuve, hein, puisqu'elle montre que l'ancêtre commun de l'homme et du grand singe pratiquait déjà le baiser sur la bouche. S'embrasser, ça a toujours symbolisé ce que l'homme a de meilleur en lui, l'amitié, la loyauté et bien sûr l'amour.
Et avant cette étude, on ne savait pas depuis quand le baiser existait.
Si, mais on pensait que c'était beaucoup plus récent. On a des fresques égyptiennes d'il y a 4000 ans où on voit des gens se faire des bisous, donc a priori, c'est que c'était déjà agréable. Et sous l'Empire romain, ça va devenir un acte très politique à Rome. Vous embrassiez sur la bouche les gens qui faisaient partie de votre famille, mais aussi les gens qui appartenaient à la même classe sociale que vous. Donc par exemple, si vous étiez sénateur, vous embrassiez tous les sénateurs que vous croisiez dans la rue.
Et comment ça va évoluer?
Alors au Moyen-Âge, clairement, ça se calme un peu, mais le baiser ne disparaît pas. C'est toujours un peu politique, puisque c'était un acte qui symbolisait la loyauté, la fidélité, et ça se pratiquait dans les ordres religieux. Prenez par exemple l'ordre des Templiers. C'était un ordre de moines-soldats. Quand vous entriez dans cet ordre, il y avait un rituel d'admission. Il fallait se déshabiller et une fois nu, tous les autres membres de l'ordre venaient vous faire des bisous, mais pas dans n'importe quel ordre. D'abord sur les fesses, ensuite sur la bouche et enfin sur le nombril. Et là, vous étiez admis.
J'aurais pas choisi cet ordre-là. Mais bon, quand est-ce qu'on commence à avoir une connotation sexuelle autour du bisou?
Alors, ça commence à partir du XVIIIe siècle. Hein, que le XVIIIe, c'est le siècle de la galanterie, du libertinage. Maintenant, quand on s'embrasse sur la bouche, c'est évidemment pour devenir amant. C'est aussi à cette époque que le mot « baiser » prend un autre sens que Mathieu, je n'ai pas besoin de vous expliquer.
Alors le baiser deviendra aussi un symbole, évidemment, du cinéma.
Bah bien sûr, un des tout premiers films réalisés, ça s'appelait d'ailleurs The Kiss, hein, le bisou en anglais. Ça date de 1896, c'était réalisé d'ailleurs par les inventeurs du cinéma, les frères Lumière. Alors c'était un film très court, hein, à peine une minute, et la dernière séquence, c'était un baiser entre deux amants, le tout premier baiser du cinéma, Mathieu.
The Kiss, et après on a parlé de French Kiss.
Oui, les Américains ont inventé cette expression puisque pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains sont venus en France pour faire la guerre et ils vont découvrir les Françaises. Et au moment de les embrasser, ces Françaises, surprise, elles mettent la langue, ce qui évidemment ne se pratiquait pas du tout aux États-Unis. Donc, quand les soldats sont rentrés en Amérique, ils ont exporté la pratique et ils lui ont donné le nom de son pays d'origine, le French Kiss.
Mais c'est si récent que ça, en fait, ça vraiment c'est le débarquement,
ouais.
Quoi. C'est...
Ouais, ouais, ouais.
Le French Kiss.
La prouille, oui.
Et le baiser de cinéma, évidemment, mythique. Merci Arthur Chevalier.
Merci Mathieu.
L'histoire qui éclaire notre actualité tous les matins. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30 avec, dans la demi-heure qui vient, Marseille qui s'apprête à marcher demain contre le narcotrafic. Emmanuel Macron a pointé la responsabilité des consommateurs. Mais il y a un débat qui surgit, qui ressurgit. C'est un vieux débat. Faut-il légaliser le cannabis? Débat voix de droite, voix de gauche ce matin avec Charles Consigny qui sera face au député Benjamin Lucas. Rendez-vous à 7h50, vous intervenez au 32-16. Et puis juste avant, à 7h40, l'immobilier qui repart, les crédits décollent, les acheteurs affluent. On fait le point avec Sandrine Allonier qui est porte-parole de Vous Financer. Vous restez à l'écoute, est-ce que c'est le bon moment pour acheter, pour vendre, pour investir? On vous donne toutes les clés. Et puis à 8h50, vous le savez, hein, vous avez rendez-vous avec Canteloup, face à Canteloup, la semaine de Canteloup, juste après le face-à-face sur RMC, il est 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Opération déminage sur la hausse surprise de la taxe foncière annoncée cette semaine. Le gouvernement va finalement lancer une consultation avant de faire grimper la note. Aura-t-on un budget l'an prochain? En cas d'impasse au Parlement, le gouvernement prévoit de reconduire temporairement celui de cette année grâce à une loi spéciale. Et puis après des mois à faire escorter ses salariés par des agents de sécurité privés, BNP Paribas fait le choix de quitter le quartier Rosa Parks d'Aubervilliers.
Le gouvernement semble donc rétro-pédaler sur l'augmentation de la taxe foncière.
Il espérait probablement que cette hausse, 63 euros en moyenne pour plus de 7 millions de logements, passe inaperçue. C'est raté, la mesure a provoqué un tollé. Et alors que cette nouvelle méthode de calcul devrait entrer en vigueur dès l'an prochain, l'exécutif appuie sur le frein Romain Houg et lance une consultation.
Oui, l'objectif de cette consultation flash, c'est de simplifier le calcul de la taxe foncière, de la rendre plus transparente, plus clair et plus équitable. Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui-même a reconnu hier devant les maires de France qu'il fallait sans doute réviser la manière dont on calcule cette taxe. L'exécutif va recevoir dans les prochains jours l'ensemble des acteurs, les parlementaires de tous bords et les collectivités territoriales, car cette mise à jour de la méthode de calcul a fait bondir de toutes parts les responsables politiques. En fait, il est question de prendre en compte la présence dans les logements d'éléments dits de confort, lavabo, WC, eau courante, électricité, autant d'éléments qui augmente artificiellement le nombre de mètres carrés et donc augmente mécaniquement le montant de la taxe foncière. En moyenne, la hausse devrait être de 63 euros pour les 7,4 millions de logements concernés. En 10 ans, cet impôt a déjà augmenté de 37,3%.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. À l'Assemblée, les débats sur le budget s'éternisent. Le vote de la partie recette pourrait avoir lieu ce soir ou dans le week-end et son rejet par les députés est quasiment certain. Les taux se resserrent, les délais seront difficiles à tenir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé hier qu'il présenterait un budget de loi spéciale, Cyprien Pézeril, pour reconduire le budget de cette année.
Oui, une loi spéciale comme il y a un an, une rustine pour prolonger provisoirement le budget de l'année précédente, éviter un shutdown à l'américaine et permettre à l'État notamment de continuer à percevoir les impôts. Le gouvernement affirme que le vote d'un budget avant le 31 décembre reste l'objectif numéro un, mais il semble de plus en plus hors d'atteinte. Les débats s'enlisent sans émergence de consensus. Utiliser une loi spéciale, c'est donc l'option qui s'imposerait, d'autant que le Premier ministre a renoncé au 49-3 et cela éloigne aussi le recours aux ordonnances qui font hurler les oppositions parce qu'elles contournent le Parlement. Le Cornu a compris que le renoncement à des procédures brutales diminue les motifs de censure. Se satisfait un socialiste. Une loi spéciale pour laisser donc du temps. Les débats parlementaires reprendraient au début de l'année prochaine, assure un conseiller, avec l'espoir de parvenir enfin au compromis.
Il est 7h33 et c'est un départ qui aurait pu être évité. Voilà ce que disait ce matin sur RMC la maire d'Aubervilliers, Karine Franklay, après la décision prise par BNP Paribas de quitter le quartier Rosa Parks. Les salariés partiront donc de la Seine-Saint-Denis pour rejoindre les Hauts-de-Seine, à Nanterre ou encore à Levallois-Perret. Conséquence, Célestin Bougère, de l'insécurité qui sévit dans le quartier.
Au pied du bâtiment de 6 étages, beaucoup de salariés disent ne pas se sentir en sécurité. Pour Xavier, un déménagement s'imposait.
C'était dans la discussion depuis 6 mois, un truc comme ça, oui.
Et quelles raisons vous donne à ce déménagement?
Principalement, c'est par rapport à l'insécurité. Vers 18h, il y a des agents qui doivent accompagner les collaborateurs vers la gare et tout.
Des agents de sécurité qui escortent les salariés de BNP Paribas jusqu'au RER, comme c'est le cas pour d'autres sociétés dans le quartier. Il faut dire qu'à quelques dizaines de mètres, des prostituées rencontrent leurs clients, des toxicomanes traînent dans la rue. Certains se droguent devant nous, me glissent. Un salarié. Ephraim a déjà vécu une situation difficile avec l'un d'eux en sortant du travail.
La personne m'a demandé des sous. Je lui ai dit que je n'en avais pas, mais la personne a insisté. La personne a commencé à m'injurier. Pour le sexe féminin, par exemple, ça peut être plus compliqué.
Sylvie habite dans le quartier depuis 20 ans. Voir partir BNP Paribas est pour elle un très mauvais signe.
Ça m'embête beaucoup. Si des grosses sociétés comme ça s'aperçoivent qu'ils ne sont pas en sécurité, les citoyens, qu'est-ce qu'ils doivent penser de la ville, quoi? Les magasins ferment un à un et là, ça devient vraiment désert, quoi.
Contacté par RMC, BNP Paribas assure que ce déménagement n'est pas motivé par un manque de sécurité. La banque souhaite officiellement privilégier des immeubles dont elle est propriétaire.
Et prudence si vous prenez la route ce soir ou ce week-end. Il s'annonce compliqué selon le ministre des Transports à cause de la neige et du verglas qui concerne 79 départements placés en vigilance jaune neige qui a déjà commencé à tomber, notamment dans l'Orne, dans le Calvados, Lyon ou encore la Vienne. Il est 7h35 sur RMC et il appelle les Marseillais à se soulever contre le narcotrafic. Benoît Payan veut voir du monde demain à la Marche Blanche en hommage aux frères du militant Amine Kessassi assassiné la semaine dernière. Un drame qui a fait réagir jusqu'à l'Olympique de Marseille. Son entraîneur Roberto De Zerbi a tenu à en parler hier en conférence de presse.
Ça m'attriste parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Je suis italien et je viens d'une ville où il y a eu par le passé des épisodes similaires et ça laisse sans voix. On connaît les problèmes sociaux qu'il peut y avoir à Marseille et nous, on essaye à travers nos performances de donner des satisfactions qui vont au-delà de ce que peut être le football dans d'autres villes. Il y a le match de 90 minutes, mais ici, le foot, ça dure une semaine. C'est malheureux, mais on essaye de faire notre travail le mieux possible.
Marseille qui se déplace sur la pelouse de Nice ce soir en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Un coup d'envoi à 20h45 à vivre évidemment sur RMC. Et puis une sortie musicale aujourd'hui, Mathieu. On parle beaucoup depuis ce matin de l'album de Daya Nakamura, mais il y a aussi This Is, le rappeur, qui dévoile son 14e album, On s'en rappellera pas, sur lequel on trouve un duo plutôt inattendu avec Laurent Voulzy.
Tu t'es mis au surf, t'as passé la barre, et t'as bu la tasse. T'as cherché les vagues, t'as trouvé les vagues, t'as surfé les vagues, voilà, tu es beau.
Surfeur, donc, c'est le titre de ce duo entre This Is et Laurent Voulzy, un son hyper planant.
Mais j'aime bien, en fait, moi j'avais pas écouté. Bon, j'ai écouté effectivement Yana Kamura et on va en reparler dans la demi-heure.
Et oui, forcément.
Et j'avais pas écouté ça encore, tiens, ça c'est peut-être pour la route du retour.
Exactement, je vous conseille, j'en ai écouté quelques-unes avant le journal et c'est très agréable.
Le Quintet Élise d'Angers, c'est à 20h15 et on est vendredi, c'est en nocturne, oui, à l'hippodrome de Vincennes.
Et donc, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Queen's Pride. L'outsider, c'est le 9, Coralia de Crouet.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Coralia de
Crouet. Ouais.
C'est le Quintet. Il est 7h37. On va accueillir Alain au 32-16. Alain qui est à Bordeaux, en Gironde. Bonjour Alain.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Alors, je vois sur ma fiche que vous êtes policier réserviste.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes dans la réserve de la police nationale.
Ouais,
et vous réagissez sur le service militaire. On sait qu'Emmanuel Macron va probablement annoncer un retour du service militaire, pas obligatoire. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Alain?
Oui, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui, à l'époque, le service militaire était obligatoire. Et ça a gêné personne, en fait. Et je ne comprends pas, maintenant, tout est bon pour faire une polémique de n'importe quoi. C'est incroyable, en fait.
Ouais, vous dites que ça gênait personne, il y a eu des mouvements, des mobilisations pour l'abolir. Et d'ailleurs, l'armée elle-même, à l'époque, n'en voulait plus.
Ah oui, mais pourtant, moi, je fais partie de ceux qui l'ont fait, hein, et ça avait plusieurs personnes, et c'était très bien, ça a permis de remettre les choses en place, et ça faisait corps. Et puis, c'est une façon aussi de défendre un peu la France. On est dedans, on vit dedans, il y a quand même des choses à faire.
Il y a des choses à faire. Vous avez entendu le général Vincent Desportes tout à l'heure, il disait pas toute une classe d'âge, pas tout le monde, on n'est pas là pour former tout le monde, on n'en a pas les moyens, mais... 10 000 au début, peut-être une cinquantaine de milliers ensuite. Avoir des jeunes qui s'engagent, quoi, Alain. C'est ça que vous soutenez?
Ben, tout à fait, exactement. Mmh. Il faut bien qu'on protège un peu nos biens.
Vous avez des enfants, Alain?
Nos femmes. Oui, tout à fait. Oui,
ils pourraient être. Je ne sais pas quel âge ils ont, vous avez 54 ans, vous, Alain, mais ils pourraient, dans l'absolu, s'engager dans l'armée, comme vous l'avez fait.
En fait, c'est un choix personnel. Chacun va définir s'il a envie ou pas. Mais il faut quand même, à un moment donné, on puisse aussi défendre nos familles, nos enfants, tout ce qui va autour de nous. En fait, c'est normal.
Merci beaucoup, Alain. Merci d'avoir pris part au débat ce matin. Ça fait partie des débats du jour. C'est le débat de la fin de semaine sur l'armée. Alors, il y a le service national dont on parle ce matin. Il y a les propos du chef d'état-major des armées aussi. Depuis quelques jours, quelques heures, on est en débat. Alors, débat un peu hystérisé dans la classe politique parfois, mais vous, votre sentiment, se préparer à perdre nos enfants, on continue d'en parler ce matin. Et Didier François, expert défense de BFM TV, sera l'invité du face-à-face à 8h30 tout à l'heure au micro de Laurent Neumann. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Tout autre chose, le marché immobilier redécolle enfin. Primo-accédant de retour en masse, les taux en baisse. Bonjour Sandrine Allonnier.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. C'est le bon moment pour acheter, pour vendre, pour investir? Vous nous répondez dans une minute.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h43, bon réveil à l'écoute d'RMC. Le marché immobilier repart nettement, plus 11% d'acheteurs selon PAP. Retour massif des primo-accédants, des crédits qui redécollent après 2 ans de repli. Est-ce vraiment le redémarrage? Bonjour Sandrine Allonnier.
Bonjour.
Alors vous êtes porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. C'est bien avec vous, on est côté agent immo et côté financement, il manque plus que le notaire. C'est l'info, sans assommer nos auditeurs de chiffres après une période franchement morose, on assiste à un vrai retour des acheteurs.
Oui, là cette année on a eu environ 10% de plus d'acheteurs, et surtout ça c'est lié grâce au redémarrage des crédits immobiliers. Il y a eu 40% de crédits immobiliers en plus cette année que l'année dernière, donc on a eu des banques qui ont voulu prêter, qui ont été moins exigeantes, notamment sur l'apport personnel, c'est sur l'épargne qu'il faut pour pouvoir acheter. Et résultat, des gens qui voulaient acheter pour se loger plutôt que de payer un loyer, qui sont revenus sur le marché parce qu'ils en ont eu la capacité grâce à la baisse des taux.
Alors Sandrine Allonnier, je voudrais quand même qu'on le souligne bien. Effectivement, les taux sont repassés de 4,3 à 3,3%, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait un point de moins, mais c'est pas négligeable. Oui, parce que quand on peut rembourser 1 500 € par mois, eh bien on peut emprunter 22 000 € de plus qu'il y a 2 ans. Donc on passe de 240 à 263 000 €, mais c'est 20 000 € de plus. C'est soit ce qui va permettre d'acheter, soit de pouvoir acheter la pièce en plus qu'il faut pour faire un enfant, etc. Donc ça a vraiment permis de déclencher des actes d'achat de gens qui attendaient parce qu'aujourd'hui, c'est une façon d'avoir d'être sécurisé, d'avoir un toit sur la tête, on veut encore devenir propriétaire.
Alors avec 22 000 €, on n'achète pas une pièce en plus à Paris, mais on a quand même des villes qui sont franchement dynamiques. Nantes, plus 20%, Montpellier, 17%, Marseille, 14%, Lille, 13,4%. Dans le détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on achète son logement. Ce sont les primo-accédants, les secondo-accédants qui dopent le marché. En revanche, on est à la peine pour ce qui est de l'investissement.
Oui, oui, tout à fait, puisque vous le voyez bien, ça fait maintenant un an et demi qu'il y a eu la première dissolution. On est dans un contexte politique très instable. On n'a pas de visibilité sur ce qui peut être fait pour aider les investisseurs, sur la taxation de l'immobilier. Donc, résultat, les investisseurs, dans ce contexte-là, quand ils n'ont pas de visibilité, ils préfèrent attendre pour acheter. Alors que ceux qui, de toute façon, ont un projet de vie, de déménager, de divorcer, de faire un enfant, eh bien, eux achètent quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a un marché immobilier résilient. Et ceux qui ont voulu acheter pour se loger ont été au rendez-vous en 2025, mais dans les villes plutôt raisonnables, c'est-à-dire là où on peut acheter avec 15-20 000 euros d'apport, là où on peut acheter des biens de moins de 300 000 euros, donc c'est-à-dire des villes où les prix sont à moins de 3 000 euros de mètre carré, et c'est celles-là qui vont vraiment le plus redémarrer. Mais le problème qu'on a...
J'ai deux questions. Je crois que vous allez répondre à ma question. Allez-y.
Le problème qu'on a, c'est que tant qu'il n'y a pas d'investisseurs, des gens qui achètent pour que les gens puissent louer, eh bien là, le marché reste bloqué, puisque évidemment, tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Donc, il faut des gens aussi qui achètent pour louer leur logement, pour loger les locataires, bien sûr.
D'un mot, si le marché repart, ça veut dire que les prix aussi ?
Oui, c'est le problème, hein. Vous connaissez évidemment, dès qu'on dit « ah, ça repart », les vendeurs disent « ah, bah finalement, je vais pas baisser mon prix ». Donc là, de nouveau, on a des frictions avec des offres qui sont faites sur des biens, mais qui sont pas acceptées par les vendeurs qui sont trop gourmands. Donc voilà, le conseil qu'il faut donner, c'est le gouvernement, on veut de la stabilité, de la visibilité, au moins pour 2-3 ans sur le marché immobilier. Et puis, les vendeurs, ne soyez pas trop gourmands, puisqu'il y a des gens qui veulent acheter pour se loger, et il faut le faire au bon prix.
Vous savez tout sur cette éclaircie et vous entendez aussi l'enthousiasme des professionnels. Merci Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer et des agences immobilières L'Adresse. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur RMC. Il est 7h47.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Marseille marche demain contre le narcotrafic et Emmanuel Macron accuse les consommateurs sont complices des narcos. Alors faut-il légaliser le cannabis ? Le débat a resurgi cette semaine et c'est le débat voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny, bonjour.
Bonjour.
Face au député Benjamin Lucas, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve dans une toute petite minute sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h48, le bonus RMC, Martin Bourdin avec Aya Nakamura qui est de retour avec un nouvel album. Il s'appelle Destiné, cet album. C'est le cinquième de la carrière d'Aya Nakamura. 18 titres, tous disponibles donc depuis ce matin. Alors certains avaient déjà été dévoilés, hein, le dernier en date avant-hier, celui que vous entendez derrière moi. No Stress, vous allez aussi pouvoir retrouver l'un des tubes de l'été d'Aya Nakamura, Badiz. Une
des attitudes de Badiz.
C'est l'un des 5 titres qu'Aya Nakamura interprète en collaboration avec un autre artiste sur cet album. Ça faisait 2 ans que les fans de la chanteuse attendaient cette sortie. C'est d'ailleurs avec cet album qu'Aya Nakamura va partir à l'assaut du Stade de France les 29, 30 et 31 mai prochains. 3 concerts, mais déjà plus aucune place. Aya Nakamura qui sera aussi, on l'a appris cette semaine, l'une des têtes d'affiche des Francofolies. Ce sera donc à La Rochelle au mois de juillet prochain.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Vous êtes Marseillais, appelez-nous ce matin. Allez-vous marcher demain contre le narcotrafic ? On parle évidemment de la guerre contre le narcotrafic longuement cette semaine. Emmanuel Macron a pointé la responsabilité des consommateurs. Mais il y a ce débat qui a resurgi, un vieux débat. Faut-il légaliser le cannabis ? C'est le débat voix de droite, voix de gauche avec Charles Consigny face au député Génération Benjamin Lucas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'il faut légaliser ? Est-ce que c'est la solution ? Je vais commencer par vous, Benjamin Lucas, le nouveau dans la bande ce matin.
Je crois, oui. J'entendais les déclarations d'Emmanuel Macron. Il parle comme tous ses prédécesseurs depuis un demi-siècle. Et la politique de prohibition, la politique de répression qu'on mène, elle coûte très cher. Elle ne produit pas ses effets. Nous sommes le pays qui réprime le plus en Europe la consommation de cannabis. Et nous sommes en même temps, cher au président de la République d'ailleurs, le pays qui consomme, où il y a le plus de consommation de cannabis. Ça prouve l'échec de cette politique publique. Et donc le fait qu'il faut repenser complètement, faire complètement autre chose. On peut pas se permettre, encore une fois, de slogans, d'effets d'annonce, de se faire des peintures de guerre sur le torse pour dire répression, répression. Et laisser les narcotrafiquants prospérer, laisser ce problème de santé publique majeur que sont les addictions aux drogues.
Charles ?
C'est paradoxal de parler de problèmes de santé publique avec les addictions aux drogues et de vouloir légaliser les addictions aux drogues. Ça me paraît un peu spécial. Moi, je me suis rendu il y a pas très longtemps à New York, aux États-Unis, qui a légalisé la consommation de cannabis. Et ben, la ville est devenue une espèce de ZAD, avec une espèce d'odeur de cannabis, de weed, comme disent les jeunes, ou de shit, ou de tout ce que vous voulez, partout dans les rues, et une population qui est en train de s'abrutir à grande vitesse avec le cannabis. Parce qu'il faut dire les choses, je sais que à gauche, on a une certaine complaisance avec la consommation de cannabis, forcément, puisque comme c'est une drogue qui vous ramollit, qui détruit votre ambition, qui vous cloue dans votre canapé, eh bien, vous finissez par voter à gauche parce que vous vous en prenez aux autres pour votre propre malheur dont vous êtes le seul responsable. Et je suis désolé, moi je connais un certain nombre de gens qui ont fumé du cannabis ou qui en fument habituellement et qui le font d'ailleurs en trouvant ça sans doute très chic, très cool, très bobo, très tout ce que vous voulez. Ils ont perdu des points de QI. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça ne rend pas service aux gens.
Est-ce que vous m'avez entendu dire autre chose ?
C'est une politique de préservation des cerveaux des Français. Et donc, il faut évidemment s'opposer à la consommation.
Et donc, inspirons-nous, par exemple, de ce qu'on a réussi à faire sur le tabac. On a des politiques aujourd'hui de prévention, des politiques de santé publique qui font qu'on réduit la consommation de tabac dans notre pays. Or, ce que vous dites est vrai sur les effets du cannabis. Moi, je viens pas ici vous dire, il faut fumer du cannabis.
Donc, qu'est-ce que vous proposez? Le cannabis à 25 euros le joint.
Je trouve l'humour assez déplacé sur ce sujet. Je suis moi-même.
Ça, je sais qu'à gauche, on n'a pas d'humour.
Oui, mais là, pardon, demain, moi, je serai à Marseille pour cette marche blanche. Le narcotrafic aujourd'hui, les narcotrafiquants se permettent de tuer des gamins jusque dans nos rues. Là, effectivement, la question de l'addiction aux drogues, c'est une question de santé publique majeure.
Et donc, vous voulez
dans
faire
la
quoi
jeunesse
par rapport
et pas seulement.
Tabac.
Et donc, ce que je constate, monsieur, c'est vous êtes un homme de droite.
Le joint à 25 très attaché, euros, 30 euros, 100 euros.
Je termine, je ne vous ai pas interrompu. Je vous entends régulièrement parler de l'efficacité de la dépense publique, l'efficacité des politiques publiques. Souvent, vous avez tort, parfois, vous avez raison. Là, je ne vous entends pas regarder l'efficacité de cette politique publique. On injecte des centaines de millions d'euros d'argent par an dans la répression et ça ne marche pas. Nous sommes le pays qui consomme le plus de cannabis. Moi, je veux faire baisser
l'impunité pour les consommateurs.
Pardon, moi, je veux faire baisser la consommation des drogues et notamment la consommation de cannabis.
Mais comment
on fait ? Voilà. D'abord, je vais vous dire qui est le plus hostile aujourd'hui à la légalisation du cannabis. Ce sont les cartels, ce sont les trafiquants parce que nous allons assécher ainsi un marché, une criminalité qui s'organise, qui prospère du fait de la prohibition. Et ensuite, nous allons pouvoir dégager des recettes, un encadrement, des contrôles qui permettront de mener une véritable politique de santé publique.
C'est pas comme ça,
de faire comme vous le faites
pratique.
Comme ça, des slogans,
mais allez
des
voir à New York,
passifs,
comment
ça marche
c'est
pas.
Allez voir à New York, ça sent la weed partout.
Écoutez,
moi je ne veux pas de ça à Paris.
Votre enquête est sans doute très scientifique.
Allez-y, vous verrez, il suffit de se balader dans les rues.
Je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron cette semaine quand il a dénoncé justement la complicité des consommateurs. Vous parliez des consommateurs, Charles Consigny, on écoute le président de la République.
Acheter de la cocaïne, du cannabis, ça n'est pas simplement un plaisir qu'on peut s'offrir, il est déjà interdit. C'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée.
Alors je passe sur le fait qu'il était à Berlin, il parlait en terre où c'est légalisé en l'occurrence, mais... Vous dites, Charles Consigny, il faut taper plus fort, plus dur sur les consommateurs.
Je suis allé à Berlin, pardon, ça sentait pas la weed partout. Hein. Je dis à monsieur Consigny, puisqu'il parle de New York, je suis allé à Berlin plusieurs fois, y compris récemment. J'ai pas eu le sentiment que les gens étaient complètement dégénérés.
J'irai voir.
Allons-y ensemble.
Non, mais j'irai voir, mais franchement, enfin, on voit bien l'effet que ça fait sur les populations. Donc, et sur les individus.
Et personne ne dit le contraire, et pas
mais
moi.
Si, mais
moi, je propose
mais
de lutter efficacement
mais
et pragmatisme.
Vous légalisez.
Vous proposez de faire des slogans.
Écoutez, moi, j'ai vu, par exemple, une ville avant, après légalisation, j'ai vu l'explosion de la consommation après la légalisation. C'est mécanique. Donc, je pense
que monsieur Consigny, pardon, parce que la différence, c'est que les Américains, ils sont comme vous. Ce sont des libéraux qui veulent pas réguler, qui veulent pas encadrer, qui veulent pas contrôler. Moi, je suis pour un marché régulé, contrôlé, encadré, notamment sur la vente, sur les filières de production, accompagner une grande politique de santé publique. Vous reconnaîtrez comme moi que la santé publique aux États-Unis, c'est pas la même chose que chez nous.
Oui, il faut arrêter avec la santé publique en France comme si c'était génial. Personne n'imite notre modèle, personne d'autre dans le monde n'a la carte vitale. Donc il faut arrêter de faire comme si c'était le seul modèle possible.
C'est vrai que c'est un modèle auquel on est tous attachés.
Mais le modèle social que le monde entier nous envie, tu parles. Je réponds à votre question. On a une politique, effectivement, aujourd'hui, là on peut se rejoindre, qui est déséquilibrée. Pourquoi ? Parce que on est extrêmement dur avec les trafiquants de drogue, et on a raison de l'être, mais c'est l'impunité totale chez les consommateurs. Et y compris chez les consommateurs, membres du monde politique, des rédactions des journaux, des gens que vous croisez.
Dans on a entendu parler des bourgeois
non,
de
non,
centre-ville.
Oui, oui, mais il a raison, il a raison de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie de beaucoup de gens. Alors c'est vrai que maintenant, le fléau est tel que ça s'étend jusque aux pêcheurs, jusqu'aux gens qui en prennent pour travailler dans des secteurs les plus variés du monde. Voilà, c'est quelque chose qui s'est beaucoup généralisé. Pourquoi ? Parce que vous ne risquez rien aujourd'hui en France à acheter et consommer de la drogue. Il faut dire les choses comme elles sont.
Pardon, moi, j'ai fumé un joint de ma vie, mais vous allez
là-dessus, je serai effectivement de droite jusqu'au bout. Je pense effectivement qu'il faut établir des sanctions financières et pénales extrêmement dissuasives pour les consommateurs. Et là, on aura peut-être une chance de faire baisser la consommation.
Je vais utiliser un argument de droite. Vous êtes comme moi attaché à l'autorité et à la force de la loi. Une loi, une législation qui est à ce point bafouée parce qu'en réalité, on pénalise aujourd'hui l'usage du cannabis, ça n'empêche pas une consommation exponentielle énorme. Est-ce que ça ne dit pas aussi, est-ce que ça ne contribue pas, est-ce que ça ne contribue pas aussi à affaiblir la force de la loi, sa puissance et le message que nous envoyons? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de concentrer nos efforts, nos moyens financiers sur une vraie politique de prévention, de santé publique qui permet d'expliquer à nos gamins dans les écoles que ce n'est pas bien de fumer, que ça peut effectivement
si
ramollir le cerveau?
Produit, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça?
Le tabac est légal, l'alcool est légal et pourtant on explique à nos mômes, on explique
légal dans avant,
c'est dangereux de fumer des cigarettes et que c'est dangereux de picoler, évidemment.
Merci messieurs, Benjamin Lucas, député Génération, la voix de gauche ce matin. Merci Charles Consigny, qu'on retrouve dans les GG tout à l'heure.
Non,
pas ce matin. Lundi, juste pour nous ce matin, Charles. Et dans les GG
lundi. J'ai fait un effort, la mère qui se lève tôt le matin, merci, elle est là.
Il est 7h56 sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le retour du service militaire, nouvelle génération. Et pour les volontaires, le projet est dans les cartons et l'annonce est même imminente. On va tout vous expliquer. La bataille contre le narcotrafic. Le maire de Marseille appelle à la mobilisation demain lors de la grande marche blanche organisée dans la deuxième ville de France. Et l'agression de trop à Tourcoing. Un médecin frappé pour une simple remarque. Ses collègues en droit de retrait jusqu'à demain.
Un service militaire nouvelle génération et pour les volontaires est donc bel et bien en préparation.
Dans la foulée des propos du chef d'état-major des armées qui a alerté cette semaine sur l'imminence d'un choc avec la Russie dans les années qui viennent, en disant qu'on devait être prêt à perdre nos enfants. Sous-entendu, être prêt à avoir des pertes, comme le précise son porte-parole.
Une guerre de haute intensité, c'est entre 200 et 1000 morts par jour. Un pays qui n'est pas prêt à connaître ça, à comprendre ça, c'est un pays qui est faible.
Alors, au-delà de cette formule qui a fait grand bruit, Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, vous nous dites que l'exécutif assume cette préparation des esprits à la menace russe et qu'Emmanuel Macron annoncera dans les tout prochains jours un service militaire, donc nouvelle génération, sur la base du volontariat.
Oui, le projet est sur le bureau du président depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron veut donner à la jeunesse un cadre pour servir. Il l'avait annoncé à la veille du 14 juillet. Dans un moment de bascule, expliquait-il, où notre liberté n'a jamais été aussi menacée. Il n'est pas question de revenir au service militaire obligatoire. Nos armées n'en auraient pas les moyens, mais plutôt de relancer un service volontaire destiné à former une armée de réservistes en renfort de nos militaires qui resteront professionnels. Cela pourrait commencer par 10 000 jeunes la première année, avec des incitations bien plus fortes que ce qui existait jusqu'à présent avec le SNU par exemple. La question d'une rémunération est à l'étude. L'ambition au plus haut niveau de l'État, c'est bien de préparer les esprits et de susciter des vocations, confirme une parlementaire connaisseuse du dossier.
Et alors, c'est important de bien comprendre s'il y a une forme d'agitation en ce moment à ce sujet. C'est parce que notre armée n'est pas assez grande pour faire face aux défis qui viennent. Voilà ce qu'explique ce matin sur RMC le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
Tous les services de renseignement européens qui ont des sources différentes disent oui, il y a un risque et ce risque est grand. Et on ne peut pas ne pas prendre en compte le pire. Et donc il faut se préparer à ce pire. Pourquoi 3 ou 4 ans ? C'est un pari, c'est une hypothèse. Mais on peut penser que la guerre en Ukraine se terminera dans l'année à venir. Et donc on sait que pour l'armée russe, il faudra 2 à 3 ans pour se remettre en état de reprendre son agression vers l'ouest sur un des points faibles de l'Europe qui pourrait être les Pays-Baltes par exemple.
Et ça, au moment où en Ukraine, Volodymyr Zelensky se dit prêt à travailler avec les États-Unis sur le plan américain qui reprend en fait les conditions russes pour mettre fin à la guerre.
Ce climat, presque va-t-en-guerre, un peu bruit de bottes. Ce climat, ce débat sur le service national, il vous interpelle, c'est sûr, vous continuez à réagir au 32-16 ce matin. Il est 8h03 sur RMC, il y a aussi dans l'actualité une autre guerre, celle contre le narcotrafic.
Elle est très dure, assume le gouvernement à la veille d'une marche blanche en hommage demain donc aux frères du militant anti-drogue assassiné la semaine dernière à Marseille, Amine Kessassi, ce militant. Le maire de Marseille, Benoît Payan, appelle à la mobilisation. Donc demain, la société marseillaise doit se réveiller. Ça, c'est ce que disent les ministres Laurent Nunez et Gérald Darmanin dans le journal La Provence. Ce matin, Anna Jaujard, vous êtes dans la deuxième ville de France pour RMC. Est-ce que les Marseillais iront à cette marche blanche demain ?
C'est une évidence pour Anna Néhérine, étudiante à Marseille, de s'y rendre.
On se sent concernée en fait, parce que on est marseillaise aussi, ça touche notre ville.
Elles y seront pour rendre hommage à Mehdi Kessassi, mais aussi pour dire non au narcotrafic.
Ça doit pas nous taire, ça doit pas nous enlever la parole, ni enlever les combats qu'on veut défendre. Voilà, au contraire, faut se lever pour soutenir sa famille, quoi. Et puis soutenir le combat et se dire que on est là et que malgré ça on continue quoi.
Plus loin, Sarah, une autre Marseillaise s'interroge.
Une marche blanche, oui, à la mémoire du défunt, c'est bien, mais est-ce que ça changera réellement les choses? Il y en aura encore malheureusement, donc je suis découragée dans le sens où on se retrouve quand même impuissant.
Oui, cette marche peut changer les choses pour Benoît Payan, le maire de la ville.
J'appelle les Marseillaises et les Marseillais, et plus largement les Françaises et les Français, à venir à dire on n'a pas peur, à dire on est debout, à dire la République est debout, à montrer qu'on est un peuple uni, qu'on doit rester un peuple uni.
Amine Kessassi, à l'origine de cette marche, appelle à descendre dans la rue par milliers. Levez-vous, battons-nous, dit-il.
Les médecins en ont ras-le-bol dans la région de Lille, je vous le disais, et ils font valoir leur droit de retrait. Pourquoi ? Il n'y aura pas de permanence jusqu'à demain chez SOS Médecins après une nouvelle agression de soignants. Agression de trop, c'était mardi, Constance Bostoen, un médecin frappé à Tourcoing pour une simple remarque. SOS Médecins parle carrément d'une expédition punitive.
Oui, car tout est parti d'une remarque dans la salle d'attente. Un médecin, excédé par le comportement bruyant d'un enfant, demande à sa mère d'intervenir.
La dame n'apprécie pas du tout. Il y a quelques échanges, ça monte un petit peu. Il rentre dans sa salle d'examen, il continue son examen.
Serge Bomoko, le président de l'antenne d'SOS Médecins de Roubaix-Tourcoing, est présent quand, quelques heures plus tard, la mère de famille revient avec son mari.
Le monsieur se jette sur son bureau, il fout tout en l'air, et il contourne le bureau, il va l'agresser de l'autre côté, il le saisit, il le pousse violemment. Le confrère tombe à la renverse, il reçoit un coup.
L'agresseur présumé s'est présenté spontanément au commissariat mercredi. Il a été placé en garde à vue. Mais dans les antennes SOS Médecins du département du Nord, les soignants craignent désormais quotidiennement pour leur sécurité.
Une situation très grave. Hein. C'est une expédition punitive. Moi, ça fait 30 ans que je fais médecine. Mais j'ai jamais vu ça.
Dans le département du Nord, depuis le début de l'année, l'Ordre des médecins dénonce déjà plus de 300 agressions de soignants.
Prudence encore ce matin sur la route avec la neige et le verglas. Géraldine n'arrête pas d'en parler. Encore des soucis de circulation. Il y en avait hier soir dans Lyon, il y en avait aussi ce matin, mais ça y est, ils sont réglés sur la N88 en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay. Le ministère des Transports prédit un week-end assez compliqué. Il neige et ça tombe bien, il y aura l'ouverture des premières stations de ski ce week-end dans les Alpes, Tignes, Val Thorens, la montagne qui est en pleine bascule. Un tiers des moniteurs de ski pense à une reconversion en station face au manque de neige par endroit, d'après une enquête Ipsos pour le syndicat national des moniteurs du ski français.
Et à 8h06 sur RMC ce matin, vous posez la question qui fâche, Quentin Vinet. Mmh. Où sont passés nos bleus du rugby ?
Ils font de grosses audiences, mais ils sont méconnaissables. Pendant cette tournée d'automne, à Wilfried Templier, rédacteur en chef rugby à RMC, ils vont rejouer demain contre l'Australie au Stade de France, troisième match de la tournée, après une défaite contre l'Afrique du Sud et une victoire pénible contre les Fidji. Ils disent eux-mêmes que ça va pas fort.
Oui, on les avait quittés triomphants, levant le trophée des Six Nations, mais 8 mois plus tard, on peine à retrouver ces Français conquérants et spectaculaires. Le deuxième ligne, Thibaut Flamand, fait ce même constat.
Le tournoi 2025, c'était il y a pas si longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans la même dynamique. C'est vrai que depuis le début, c'est un peu moyennasse, mais on est bien conscient des prestations qu'on rend. Mais c'est sûr que ouais, il y a cette frustration que tout le monde a. Hein.
Comment les Bleus ont-ils pu perdre le fil de leur attaque qui a établi un record lors du tournoi avec 30 essais marqués ? Le sélectionneur Fabien Galthié réclame du temps et de la patience.
On croit qu'on a des bases qui sont acquises, mais en fait non. Quand on retrouve les joueurs, notre organisation n'est pas du tout la même que celle des clubs. Il faut retrouver les réflexes individuels et collectifs et ensuite la confiance. Donc il y a tout un travail. C'est comme ça, 9 mois plus tard, il faut le reprendre.
Mais l'Australie, c'est déjà le dernier match de la tournée. Alors au-delà des considérations tactiques, Flamand a une priorité.
De prendre du plaisir, de se lâcher, d'oser, de tenter, de faire preuve de panache, de se régaler. Quoi.
Et retrouver des Bleus capables à nouveau d'enflammer le Stade de France.
Alors avec les Bleus, demain, exceptionnellement, il y aura le début de la 10e journée de Top 14 entre Bordeaux et Pau. Ce soir, ce sera à 21h. Et pour ceux qui préfèrent le foot, il y aura le derby bouillant du Sud-Est, 20h45, à vivre sur RMC, entre Nice et Marseille, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1.
Merci beaucoup Quentin Vinet. Quelle ouverture de la Ligue 1 justement. Bah tiens, vous savez quoi, on va aller à Marseille. Vous parliez de Nice-Marseille. On va accueillir Ben au 32-16 qui nous appelle ce matin. Bonjour Ben.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Vous êtes commerçant dans le CBD, Ben.
C'est ça, exactement.
Et vous avez réagi à notre débat sur la légalisation du cannabis. Vous dites qu'il vaut mieux légaliser.
Il vaut mieux légaliser parce que j'ai envie de faire prendre conscience à ceux qui ne connaissent pas le domaine qu'il y a vraiment un problème de santé publique avec tout ce qui est synthétique. Donc, pour deux mots, pour vous expliquer, donc moi, ça fait déjà 3 ans, 4 ans que je suis dans le CBD.
Ouais. Le CBD, je le rappelle, hein, c'est la même plante, mais sans le principe actif qui lui est illégal.
C'était ça, ça a été des molécules qui ont été levées, en gros le THC, où il y a un pourcentage de 0,02% de THC, et c'est illégal en Europe. Donc du coup, il y a 3 ans en arrière, il y a des Suisses qui ont fait un gros marché dans ce domaine de CBD, qu'ils ont commencé à vendre un peu dans toute l'Europe, et petit à petit, ils ont commencé à chercher autre chose qui fait, on va dire, des psychotropes. Vous voyez, quand on fume le THC, on a une molécule, c'est un peu psychotrope, quoi, si vous voyez.
Ouais.
Et ils ont inventé des molécules synthétiques, comme le HHC, HHCP.
On en a parlé, oui, ça, des trucs assez dangereux qui étaient en vente libre un temps avant d'être régulés. Pour vous, il faut une légalisation contrôlée depuis le sol français, c'est ce que vous dites, Ben?
Exactement. Quand vous regardez du business model,
je me permets parce que très bien, vous parlez de business model. En fait, vous parlez aussi du business dans lequel vous pourriez vous développer si vous vendez déjà du CBD.
C'est très simple. En Espagne, quand vous allez consommer dans un social club, on vous prend votre identité, on vous prend en photo, on vous vend un certain grammage.
C'est contrôlé, c'est réglementé.
C'est contrôlé, exactement.
Bon. Ben, d'un mot juste, parce que vous êtes à Marseille, je suis obligé de vous poser la question. Vous allez aller à la marche contre le narcotrafic demain?
Sincèrement, je pourrais pas y aller, mais je vais suivre ça.
Ok, merci Ben. Merci de votre coup de fil au 32-16 ce matin. Ben, commerçant marseillais dans le CBD. Il y a un regard sur une légalisation, quand on parle de légalisation du cannabis, il a un regard économique aussi, mais il plaide pour quelque chose de contrôlé ici en France. Tout autre chose, 8h10, on va parler de la pauvreté avec vous, Manu Le Chypre, c'est l'heure de la chronique éco. Manu, la pauvreté s'intensifie en France et surtout, elle touche des profils de plus en plus variés.
Oui, depuis 1995, le Secours catholique ausculte l'évolution de la pauvreté en France à travers les profils des gens qui l'aident. Et la 30e édition du rapport qu'il vient de publier montre d'abord que la pauvreté s'aggrave. Le niveau de vie médian de ceux que le Secours populaire accueille a diminué, 565 euros par mois. C'est 100 euros de moins qu'il y a 10 ans. Pire, une personne aidée sur 4 n'a absolument aucune ressource. C'était 1 sur 10 il y a 10 ans. La pauvreté touche de plus en plus les femmes et notamment les mères célibataires, de plus en plus d'immigrés, de plus en plus de ruraux, de plus en plus de gens malades, handicapés ou inaptes au travail. Et surtout, avoir un emploi ne protège plus de la pauvreté, même en CDI. Les Restos du Cœur aboutissent à peu près aux mêmes conclusions.
Oui, et j'insiste, 565 euros, ceux qui sont aidés, c'est le niveau de vie médian, la moitié est au-dessus.
Ouais.
L'autre moitié est en dessous.
Exactement.
En dessous de 560 euros.
Exactement.
Au niveau de l'ensemble des Français, on en sait plus sur leurs difficultés financières et sur ce dont ils se privent.
Oui, et ça, c'est un travail récent de l'INSEE qui mesure les privations réelles dont souffre l'ensemble des Français, ce qui est beaucoup plus riche d'enseignement que la simple mesure du taux de pauvreté qui souffre de beaucoup de problèmes statistiques. En fait, en 2024, il y avait 8,6 millions de personnes qui vivaient dans un logement ordinaire et qui étaient en situation de privation matériel et social. C'est quoi être en situation de privation matérielle et sociale? Eh bien, c'est ne pas être capable de faire face à au moins 5 des 13 grands postes de dépenses recensés par l'INSEE. C'est beaucoup plus que au cours des 10 dernières années.
Mais qu'est-ce qu'on n'a plus les moyens de se payer, Emmanuel?
Alors, par exemple, les Français peinent de plus en plus à faire face à une dépense imprévue de 1000 euros. Il y a presque 3 Français sur 10 qui ne sont pas capables, si jamais ils ont un problème, de mettre 1000 euros sur la table. De plus en plus de Français qui ont des difficultés à remplacer les meubles usés ou abîmés, à se chauffer correctement, 2 fois plus qu'en 2014 sur la difficulté à payer ses factures de chauffage. S'acheter des vêtements neufs aussi, malgré tout ce qu'on entend sur les sites de vêtements bon marché, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, leur crédit, leur facture ou même évidemment une nouvelle voiture. Il n'y a qu'un seul poste où ça s'améliore un petit peu, parce que manifestement c'est un poste que les Français veulent sacraliser, c'est le poste des loisirs et notamment pouvoir s'offrir une semaine de vacances. Les Français sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'offrir une semaine
de vêtements pour offrir une vacances aux enfants, notamment. Merci Emmanuel Le Chypre, ces chiffres édifiants sur la pauvreté en France. Il est 8h13.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h17 sur RMC, c'est l'heure du meilleur d'Arnaud de Manche.
Nicolas Dupont-Aignan a organisé le congrès de son parti, Debout la France, c'était ce week-end.
Oui, Nicolas Dupont-Aignan, qui est à la fois le fondateur de Debout la France, son président et également son membre, seul et unique membre. Mais à Debout la France, on privilégie la qualité à la quantité. Alors le parti au grand complet était réuni à la salle municipale de Hyères, c'est la ville la plus cool de France. La salle qui avait accueilli déjà cette semaine d'autres sommets politiques comme le pot de départ en retraite de Monique Martinez, hein, la secrétaire de Julien Cosnefroy, le vice-adjoint au sport de la mairie. On ne les présente plus. Nicolas Dupont-Aignan a appelé à la destitution d'Emmanuel Macron et après, le meeting était fini. Alors il a éteint les lumières et il est allé rendre les clés à l'accueil de la mairie.
Merci Nicolas, tu t'es amusé avec tes copains?
J'ai pas de copains, mais oui, je me suis bien amusé.
T'as rangé les chaises?
Non, j'ai pas trouvé de chaise, mais on s'en fout, on est Debout la France. Alors vous le savez, Apolline, j'ai une passion cachée pour Debout la France. Je suis allé visiter le site du parti. Il y a une boutique dans laquelle vous pouvez acheter des livres, mais aussi, plus surprenant, pour 17 euros, il y a des savons Debout la France.
Mais non.
Pour se laver, car moi, tous les matins, j'aime me laver avec le savon Debout la France. C'est comme si je prenais ma douche avec Nicolas Dupont-Aignan. Avec mon savon Debout la France, comme lui, je peux sentir la loose toute la journée. Avec ses extraits de somme, son huile de jojobarge et son odeur de rance, le savon Debout la France pour le plus raté des réveils. Debout la France, parce que je ne vaux rien.
L'amour est dans le pré reprend.
Ah oui, j'adore. C'est bucolique. On peut voir des cultivateurs faire des papouilles à des assistantes dentaires dans des champs de colza. C'est super. Alors en ce moment, c'est les étapes du speed dating. Et donc, alors, parfois, ils offrent à leurs prétendantes des cadeaux venus de leur exploitation. Ils ramènent du vin quand ils produisent du vin, du fromage quand ils produisent du fromage. Tu marques moins de points si tu produis des betteraves. C'est vrai que, Apolline, hein, une betterave au premier rendez-vous, vous y allez?
C'est bon, les betteraves.
Tous les produits ne marchent pas en speed dating. Oh, tu m'as acheté une chèvre. Ben non, c'est la deuxième prétendante. T'as aussi la séquence horrible de celui qui a pas eu de courrier. M6 a mis le paquet pour le vendre. Alors, Martin, tu as 57 ans, tu habites avec ta mère dans une ferme isolée à moins de 75 km d'Issoudun et tu es célibataire depuis...
Depuis 57 ans.
Oh, et t'as jamais eu de copine?
Non.
Alors c'est quoi tes passions?
La taxidermie. J'en fais dans le garage. En fait, je vais me promener dans la campagne et quand je trouve un furet mort, je mets de la paille dedans, ça fait comme une statue.
Eh ben, c'est chouette. Alors, mesdames, si vous voulez empailler des furets morts avec un puceau de 57 ans qui vit chez sa mère à moins de 75 km d'Issoudun, vous contactez l'émission. 3 semaines plus tard, je suis désolé, je comprends pas, personne t'a écrit.
Oh, bah merde. Bon, bah, c'est comme ça. Je vais aller fourrer un cadavre de renard avec de la paille, ça va me détendre. Et alors après, il y a le séjour à la ferme. Et ça, je trouve ça dingue. Enfin, depuis quand vous pouvez ramener 2 nanas chez vous pendant 1 semaine pour les tester? Allez-y, hein, essayez. Après un speed dating, allez voir les meufs et faites « Bon, alors toi, vous venez chez moi 1 semaine, je vous prends toutes les 2 et je vous préviens, on filme tout. » Vous savez, on passe notre temps à expliquer aux gamins que le porno, c'est pas réaliste, mais alors ça dérange personne de montrer 2 femmes enchantées d'aller inséminer des truies chez un couple qu'elles ont
rencontré.
Enfin, ça détend quand même comme émission.
Arnaud de Manche qu'on retrouve lundi, bien sûr, en direct à 7h20 et 8h20 avec Apolline de Malherbe.
RMC vous offre 120 000 euros.
L'heure est grave, la musique est joyeuse, mais l'heure est grave. Le moment est solennel, puisque le jeu s'arrête lundi. C'est maintenant que vous allez pouvoir jouer pour essayer de gagner 120 000 euros. Alors, en réalité, il y a 100 000 euros pour vous. Net d'impôts, hein, je le rappelle, en ce moment ça fait pas de mal. 100 000 euros pour vous et 20 000 euros pour la personne de votre choix. Alors attention, un proche, un ami, de la famille, mais il faut que cette personne nous dise qu'elle écoute RMC quand on l'appelle. C'est la seule condition. Sinon ça fait 120 000 euros au total à remporter. On n'a jamais offert ça sur RMC. Pour jouer, vous envoyez tout de suite RMC au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour jouer. Alors on va regarder l'heure, on va être gentil, on va dire il est 8h21 précisément, je note. 8h21, vous avez jusqu'à 8h31 pour jouer, mais en fait c'est maintenant, hein. Vous mettez sur le bas-côté, vous prenez votre téléphone, vous envoyez RMC au 7-32-16 et peut-être, c'est tout ce que je vous souhaite, peut-être que lundi vous serez tiré au sort pour gagner 120 000 euros. RMC au 7-32-16.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Dans un instant, vous restez sur RMC, et BFM TV, le face-à-face avec Didier François, consultant défense de BFM TV, invité de Laurent Neumann.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Laurent Neumann.
Il est 8h28 sur RMC et sur BFM TV. Bonjour Didier François.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste défense BFM TV. On avait vraiment besoin d'un expert ce matin pour revenir évidemment, bah oui, sur les propos du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Oui, ça fait jaser, ça fait beaucoup réagir. Il y a eu de la sidération, de l'inquiétude, beaucoup de critiques aussi. Je vais relire ses propos hein, prononcés devant le Congrès des maires. Il dit ceci: si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, ajoute-t-il, s'il n'est pas prêt à souffrir économiquement, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. D'abord, je voudrais essayer de comprendre, Didier François, quand il dit « perdre nos enfants », de quels enfants parle-t-il ? Est-ce qu'il parle juste des militaires ou il parle de chacun de nos enfants dans chaque famille de France ?
Mais ce sont les soldats et les militaires sont les enfants de la nation.
Bien sûr.
Il y a quand même une petite hypocrisie à s'emballer là-dessus. Je rappelle que la semaine dernière, c'est le 11 novembre et que tous les dirigeants politiques, le Bleuet, et ce qui est bien normal, à la Boutonnière, sont allés devant les monuments aux morts où c'était justement nos enfants morts pour la France. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire d'un point de vue militaire. Ça veut dire ce qu'a voulu rappeler le chef d'état-major des armées, c'est que dans un monde qui devient de plus en plus violent, où nos adversaires n'hésitent plus à recourir de manière totalement décomplexée à la guerre et à l'affrontement au rapport de force, rappelons que la liberté a un prix et que le prix de la liberté c'est pas seulement les armes, c'est pas seulement le budget, c'est la volonté de vouloir défendre ce que nous sommes et ce pourquoi nous vivons.
Alors
c'est aussi simple que ça.
On va revenir sur les raisons de ces propos. Mais d'abord, quelques questions que tout le monde se pose. Le chef d'état-major des armées qui parle devant le Congrès des maires, il le fait avec le feu vert du président de la République. Je me suis demandé tout simplement si le président de la République avait même relu son discours et les propos qui font jaser, comme vous dites.
Alors, relu, honnêtement, j'en sais rien. Je vais pas poser la question au chef d'état-major des armées. En revanche, ce qui est logique, c'est qu'il soit intervenu devant les maires, après être intervenu devant les députés, et cela dans un cadre de présentation de la situation stratégique générale aux élus de la République. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous la séquence, on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais pas du tout. En fait, le président de la République s'est exprimé le premier, le 13 juillet dernier, sur la présentation, lors des vœux à la nation et aux armées, de la revue stratégique nationale, dans lequel on explique qu'aujourd'hui, l'un des risques que l'on peut avoir à faire face, c'est un risque d'engagement majeur des armées françaises en Europe, hors du territoire national, puisque le territoire national, lui, il est protégé par la dissuasion nucléaire, il est sanctuarisé. En revanche, si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, la Russie revigorée avec une armée qui s'est reconstituée après la guerre en Ukraine, parce que pour l'instant, elle est usée par la guerre en Ukraine, mais on voit bien qu'ils sont sur un modèle de croissance qui fait qu'ils testeraient la solidarité européenne à un moment où les Américains
J'essaye de faire de la pédagogie pour ceux qui nous écoutent sur RMC ou qui nous regardent sur BFM TV. Donc, vous êtes en train de me dire que ce qu'a dit Fabien Mandon, il faut nécessairement le relier à ce qu'avait dit son prédécesseur Thierry Burkhard. C'était le 11 juillet dernier, absolument, juste avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. On va reciter ses propos. La Russie a identifié la France comme son principal adversaire en Europe. Ça veut donc dire qu'il faut clairement se préparer à quelque chose de sérieux avec la Russie?
En fait, l'idée, c'est de se dire, si on est prêt à ce scénario d'affrontement, eh bien, on va le dissuader. Le problème, c'est qu'il faudrait pas que la Russie fasse un mauvais calcul.
L'idée, c'est pas de faire la guerre, mais de tout faire pour l'empêcher.
Bah, c'est toujours la même chose. Le rôle des armées, c'est d'empêcher la guerre. D'abord parce que les armées, c'est les premiers qui seront. La nation serait engagée dans la guerre serait une catastrophe. Donc, l'idée, c'est d'être suffisamment fort avant et de montrer notre détermination pour que l'adversaire ne fasse pas d'erreur de calcul et ne se dise pas, oh là là, il y a tous les herbivores là-bas qui sont dans le pré,
ils sont pas prêts à se défendre. C'est l'expression d'Emmanuel Macron.
Oui, mais c'est pas que lui, en fait. Regardez, c'est étonnant, on a toujours ce débat très franco-français. Hier, le chef d'état-major de l'armée suédoise a dit la même chose. Le polonais dit pareil, les Allemands disent, eux, 2029. Donc vous voyez bien que tous les Européens voient ce qui se passe. Ils voient deux choses, ils voient un retrait américain de l'Europe, ils voient une montée en puissance de la Russie, et donc la question qui se posera, c'est comment éviter, alors qu'on a perdu En fait, ces deux protections entre guillemets. Comment éviter que la Russie ne fasse une bêtise en allant tester les pays baltes ou tester les Polonais ou tester les Moldaves qui ne sont pas dans l'OTAN? Et qu'est-ce qu'on ferait si demain un pays européen avec lequel on a une monnaie commune, une économie commune, une énergie commune, des valeurs communes, des institutions communes était attaqué ou testé? On est bien obligé d'y aller.
Il y a une autre question que beaucoup de gens doivent se poser. Pourquoi nous? Pourquoi la Russie a identifié la France comme son principal adversaire? Je rappelle quand même qu'on a la puissance nucléaire, justement. On a une vraie puissance militaire, on a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire que tout ça ne nous protège pas, si. On ne nous protège plus.
Si, au contraire, ça nous protège, mais c'est ce qui nous permet aussi d'organiser la résistance. Vous avez bien compris que, par exemple, la coalition européenne aujourd'hui se fait autour de deux pays, qui sont les deux seuls pays qui ont l'arme nucléaire, qui sont la Grande-Bretagne, qui ne sont plus dans l'Union européenne, et la France. Pourquoi? Parce qu'avec un retrait américain, c'est les deux seules puissances qui restent sur le continent européen, dotées et donc capables de dire à la Russie, on n'a pas peur. Voilà, les autres sont plus dans une situation plus inquiétante. Donc ils sont obligés de s'appuyer sur une partie de notre dissuasion pour pouvoir réagir. Donc les Russes le savent parfaitement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de la guerre hybride. On va pas avoir un déboulé de char sur les Champs-Élysées, soyons sérieux, ça n'a aucun sens. En revanche, le risque évidemment, c'est un, ce qu'on appelle cette fameuse guerre hybride, c'est-à-dire la guerre informationnelle, parce que sur le débat, je peux vous dire que les trolls russes, ils y vont sacrément sur la
Et il faut le dire, ça n'arrive pas qu'en France, hein. Il y a une voie ferrée qui a été sabotée en Pologne ce week-end, c'est tous les jours en Europe.
Donc le chef d'état-major des armées est dans son rôle quand il dit aux maires de France, qui seront, après l'avoir dit aux députés, c'est ce qu'il avait fait dans un premier temps, attention, il faut que vous soyez prêts à pouvoir organiser la résilience de la nation, c'est autour de vous que se ferait, par exemple, la mise en place des structures hospitalières, des trains, des hôpitaux, des aéroports, enfin de tout ce qui serait la logistique et le fait qu'une nation tienne face à une agression. Donc il est totalement logique que le chef d'état-major des armées aille s'appuyer, et c'est ce que prévoit la revue nationale, sur ce qui fait la résilience de la France. Mais on avait l'habitude de
la revue nationale, pour ceux qui nous écoutent, d'un mot.
La revue nationale stratégique, en fait, c'est l'analyse qui est faite par les services de renseignement et l'ensemble des services de l'État des risques majeurs et qui disent, voilà, on a une hypothèse. L'hypothèse est que d'ici 2030, si on est capable de dissuader une attaque russe majeure en pouvant projeter l'ordre de 30 000 hommes en dehors de nos frontières aux côtés d'une force européenne, eh bien, si on est capable, ça ne veut pas dire que ça va arriver, si on est capable de répondre à ce scénario-là, on est capable de répondre à tous les scénarios de crise. Le but du jeu, encore une fois, c'est de dissuader la guerre, c'est de gagner la guerre avant la guerre.
C'est très clair. Didier François, je le disais en vous présentant, vous êtes vraiment un expert de ces sujets-là. Et moi, en écoutant Fabien Mandon, je me suis dit, mais est-ce que le haut commandement militaire, nos services de renseignement, savent des choses? J'imagine que oui, que nous ne savons pas. Par exemple, sur les intentions précises des Russes ou sur l'écroulement potentiel des Ukrainiens là dans leur guerre d'ici quelques semaines ou quelques mois. Est-ce qu'ils ont entre leurs mains des informations que nous n'avons pas et que vous d'ailleurs vous avez peut-être?
Non, alors encore une fois, les services de renseignement essaient évidemment de décrypter, mais on peut pas être dans la tête de Poutine, hein, que les choses soient claires. En revanche, il y a des choses que l'on peut voir, et pas seulement les services de renseignement. On voit bien que depuis 2008, la Russie monte en gamme et qu'elle est de plus en plus agressive. Géorgie, Syrie, prise de la Crimée, attaque de l'Ukraine. Donc on voit bien la tendance. On voit bien la Chine aussi. N'oublions, parce que nous, on est toujours ultra franco-français et puis très européen centré. Mais les Américains, pourquoi ils se retirent de l'Europe? Parce que eux estiment qu'entre 2027 et 2030, il y a un véritable risque que Xi Jinping veuille reprendre Taïwan. Et ils disent, si nous, on est occupé à Taïwan, on pourra pas s'occuper de l'Europe. Donc, grosso modo, démerdez-vous. Et donc, tout le monde a ça en tête. Tout le monde sait que c'est pour ça qu'on accélère le tempo pour pouvoir être prêt au cas où. Parce que, encore une fois, alors, moi, je suis un vieux con, donc j'ai l'habitude. Dans les années 80, on avait la guerre froide, on savait ce que c'était, on faisait notre service national, on avait ces structures de l'OTAN qui faisaient que, des troupes pouvaient transiter par la France pour aller des ports de l'Atlantique jusqu'à l'Est. Tout ça, on vivait avec. Il se trouve que pendant 30 ans, on a eu une période de paix totalement exceptionnelle en Europe de l'Ouest, et que donc on a un peu oublié ses fondamentaux, et que donc maintenant quand on nous dit que la pluie mouille, oula, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais en fait on vit très bien avec. On a vécu, toute notre génération a vécu avec ça.
Vous m'avez répondu sur les possibles intentions russes, et là on analyse les faits, mais il y a aussi le possible écroulement de l'armée ukrainienne. On entre dans un hiver qui s'annonce à nouveau extrêmement long. On voit les coups de boutoir qui sont portés sur la ligne de front. On parle quand même de centaines voire de milliers de morts tous les jours. Et que nous avons un certain nombre d'informations qui pourraient nous laisser penser que les Ukrainiens pourraient s'écrouler dans les semaines ou les mois qui viennent?
Alors, un effondrement, non, on n'y croit pas. Là, aujourd'hui, il y a une poussée russe qui est due à de la conjonction. Mais alors, premièrement, c'est intéressant l'Ukraine. Pourquoi? Que les choses soient claires, les paroles du chef d'état-major ne consistaient pas à dire on va envoyer nos troupes en Ukraine combattre la Russie. Enfin, que là aussi.
Mais c'est bien de le redire.
Non, mais je préfère le redire parce qu'il y a quand même, voilà, les hommes politiques qui jouent avec ça. Ils savent quand même exactement que c'est pas vrai. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple l'Ukraine. Bah, non plus, ils voulaient pas la guerre. Hein, eux aussi, ils voulaient la paix. Eux, ils perdent leurs enfants tous les jours. Il y a 1000 morts par jour au moins côté russe et c'est très élevé côté ukrainien. S'ils avaient pu l'éviter, ils auraient préféré le faire. Ils l'auraient évité s'ils avaient été forts. Aujourd'hui, je pense pas qu'ils vont s'écrouler. En revanche, ils ont un vrai problème de mobilisation. Pour le coup, quand on discute avec des commandants ukrainiens sur le front, leurs unités, elles sont à 70% parce que simplement de leurs effectifs au lieu des 100%, ce qui fait que c'est difficile de tenir le front, parce que justement, ils ont refusé de mobiliser les jeunes de 18 à 25 ans. Pour dire la moyenne d'âge dans les tranchées en Ukraine, c'est 42 ans. C'est quand même élevé. Et c'est difficile. Quand on discute avec eux, ils disent attention, une guerre face à un pays comme la Russie, qui n'a pas peur des pertes et qui s'en fout complètement, en fait, parce que son opinion publique va pas renverser Poutine qui tient ça d'une main de fer.
On parle de plus de 300 000 morts et blessés russes depuis le début de la guerre.
Donc ça fait 100 000 par an quand même à la louche. Non mais c'est ça qu'essaye de rappeler le chef d'état-major des armées aux Français qui évidemment, heureusement et tant mieux, vivent bien. Donc attention, le monde n'est pas le monde de bisounours que l'on croit parfois. Mais ils sont pas prêts de s'effondrer. En revanche, ils ont un problème, comme ils ont pas d'hommes, ils dépendent des drones pour se défendre. Or, il se trouve que les 10 derniers jours, il y a un brouillard de chiens qui est sur toute la ligne de front, et que donc les Russes, eux, envoient des vagues humaines, et que comme les drones, ils fonctionnent pas, ça recule. Alors, ça veut pas dire que l'armée ukrainienne est en bon état, mais elle est pas à l'état de s'effondrer. Et puis la deuxième chose, j'imagine qu'on allait y venir, c'est
oui.
Le plan de paix.
Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que on se dit, mais peut-être que dans l'esprit des Européens, on se dit que ce plan de paix sur lequel Donald Trump est censé travailler depuis des mois, peut-être qu'il n'a aucune chance. Il y a un plan de paix qui a été présenté, il est en 28 points, j'en résume les principaux. L'Ukraine doit céder les territoires déjà occupés par la Russie, c'est-à-dire la Crimée, les quatre oblasts du Sud-Est, dont l'intégralité du Donbass, si j'ai bien compris.
Ça, c'est l'article 21. Oui, en fait, ils disent reconnaissance de facto que l'Ukraine se retire de la totalité du Donbass. La ligne dans laquelle il serait retiré serait une zone démilitarisée, donc une reconnaissance de facto des conquêtes et un arrêt de la ligne de donc ça c'est Donbass.
Et l'Ukraine serait amputée de la moitié de ses forces militaires.
En fait,
c'est
600 000 hommes.
Pardon de le dire comme ça. En fait, c'est pas un plan de paix. On demande à l'Ukraine de capituler.
À ce stade, en fait, on est dans la logique de ce qui avait été déjà présenté à cet été, qui est une logique de capitulation. Le problème étant que, en fait, vous le voyez bien, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est eux qui, en fait, usent l'armée russe. L'économie russe et le système russe est organisé pour recruter. Ils sont à 20% en plus de leurs objectifs de recrutement. Ils ont aujourd'hui une armée à 1 200 000 hommes et ils produisent des armes à une tendance extrêmement forte. Une des inquiétudes, par exemple, des Européens, c'est demain, paix en Ukraine. Tant mieux, honnêtement. Mais l'armée russe, elle continue de croître, l'économie russe continue.
C'est ce que j'allais vous dire. Parce que ce sont des conditions inacceptables pour l'Ukraine, mais ce sont des conditions inacceptables pour l'Europe et la future sécurité de l'Union européenne aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut se préparer à la suite.
Eh ben, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, le jour où ça s'arrête en Ukraine et que la Russie continue de monter en puissance, eh ben, le risque, c'est que son appétit se porte sur d'autres. Et pareil. Ça sera pas du déboulé de char, ils sont pas fous. Mais exemple bête, demain, un groupe de paramilitaires pro-russes en Estonie, au nom de la défense d'une minorité russophone, décide de saisir 40 km² en Estonie.
Qu'est-ce qu'on dit aux Français? C'est compliqué de leur dire il faudrait aller mourir pour l'Ukraine, mais alors c'est encore plus difficile de leur dire d'aller mourir pour Riga, pour Vilnius ou pour
Le problème c'est que c'est exactement ce que disait Marcel Déa en 1939, c'est-à-dire on va pas mourir pour Danzig, et moralité, on s'est tapé 50 guerres. Donc le problème c'est justement pour éviter de se taper les 50 guerres, il vaut mieux être fort avant pour que l'adversaire ne soit pas tenté de faire une bêtise.
Vous comprenez quand même que ce climat soit terriblement anxiogène, ça arrive au moment où Matignon diffuse un guide de survie à tout le monde. Et alors, j'ai appris que Taïwan faisait exactement la même chose. Là, c'est pour se prémunir de l'invasion potentielle des Chinois à Taïwan. Mais en réalité, il y a plein de pays qui font ça, non?
Mais en fait, tous les pays font ça. Enfin, je veux dire, un sac de crise, c'est un sac de crise. que ce soit une crise naturelle, une guerre ou autre chose, il faut de l'eau, faut de la bouffe, faut de quoi faire du feu, il faut de quoi se couvrir. Enfin, c'est le béaba quand même.
Mais là aussi,
parfaitement normal. Malheureusement, dans le monde, on a cru pendant des années que, pendant les 30 dernières années, que la parenthèse exceptionnelle de paix que nous avons vécue était la norme. On est en train de se réveiller. Alors, c'est évidemment difficile pour l'autruche de sortir la tête du sable parce que c'est désagréable. Honnêtement, ça gratte. Mais en fait, la vérité, c'est ça. C'est qu'on revient à un monde normal tel qu'on le connaissait avant.
Il y a autre chose qui risque de gratter. J'ai vu que Emmanuel Macron s'apprêtait à prendre la parole le 27 novembre prochain. Il va faire un déplacement dans les Alpes. Et alors, on parle d'un retour du service militaire. Retour n'est pas le bon mot.
Oui.
Mais d'un service militaire qui pourrait s'adresser à 10 000 soldats, nouveaux soldats, des jeunes majeurs, hommes et femmes d'ailleurs. Alors, garçons et filles volontaires, potentiellement payés, c'est une demande de l'armée, c'est une nécessité absolue.
Alors, en fait,
où en est le projet pour ce que l'on en
alors,
sait
pour l'instant, en fait, il y a un besoin. Vous voyez bien qu'il y a un besoin. L'armée de terre recrute tous les ans 16 000 jeunes, hein, quand même, que les choses soient claires, et ça marche très bien. Il n'y a pas de sujet de là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude sur le patriotisme de la jeunesse et son engagement pour défendre le pays. En revanche, il y a un vrai besoin de ce qu'on appelle un peu de masse, c'est-à-dire que on a les armées qui sont taillées depuis des années, et donc aujourd'hui, il y a une réserve, et l'idée étant de faire un service militaire pour le coup, volontaire, donc à la louche. Les études aujourd'hui, ce qui est proposé, de toute manière le président tranchera et puis il l'expliquera, mais ce qui est le plus facile de faire aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est effectivement sur un volume de 10 000 hommes, un peu sur le modèle
mais
du
pardon,
service civique.
Pardon, on a l'argent, on a les infrastructures, on a l'encadrement militaire pour s'en
occuper. Alors justement, c'est pour ça que comme on va parvenir à une classe d'âge entière, une classe d'âge, à l'époque c'était que les garçons, c'était 400 000 hommes, aujourd'hui c'est 800 000 jeunes, ça, aujourd'hui une classe d'âge qui vienne pendant un an faire un service national, on n'en a pas les capacités. En revanche, une remontée en puissance, c'est-à-dire donner à des jeunes qui veulent le faire la capacité d'apprendre comment se comporter, qu'est-ce que c'est qu'une arme, qu'est-ce que c'est qu'une manœuvre, etc. Donc un vrai service militaire, une formation. Si vous en formez 10 000 par an, ça vous fait 100 000 sur 10 ans, c'est déjà pas mal pour avoir une petite base. Après, ça pourra monter en puissance. Mais à ce stade, voilà, sur le modèle du service civique, c'est à peu près ce qu'on peut faire de plus efficace.
J'ai gardé le plus difficile, peut-être d'ailleurs le moins intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez pour la fin. Les réactions politiques au propos du chef d'état-major des armées, on a entendu certains à gauche dire c'est des va-t'en de guerre, oui, d'autres ça, ouais. dire c'est inutilement alarmiste. J'ai même entendu un élu de RN dire il n'est pas légitime à dire D'accord. à dire tout ça. Comment vous avez réagi, vous, le spécialiste de ces questions?
D'abord, moi, je suis pas surpris parce que en fait, encore une fois, c'est la pluie, ça mouille. Oui, à la guerre, on en a des morts. Juste une chose pour ceux qui disent que c'est pas légitime. Quand les responsables des services de renseignement intérieurs ou extérieurs viennent mettre les élus français en garde et les Français à travers eux contre la menace terroriste islamiste, par exemple, ils sont dans leur rôle et c'est normal. Et là, ça couine parce qu'on dit que c'est des Russes qui viennent nous emmerder. Non, mais voilà. Enfin, il y a un moment, faut rester raisonnable et arrêter les chicailleries politiciennes. On a le droit de pas aimer un gouvernement, un président, etc. Mais enfin, le pays, ça reste le pays. Donc, indépendamment de tout ça, je pense que le chef d'état-major des armées est dans son rôle en disant attention. On est quand même dans une situation de tension internationale que vous, peut-être, n'avez pas totalement réalisé et que pour être efficace et pour être crédible, eh ben, il faut dire que on est prêt à défendre notre liberté. Elle a un prix.
Merci Didier François d'être venu éclairer ces propos du chef d'état-major. Il est très précisément 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Laurent Neumann. Dans un instant, c'est la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur RMC, sur une semaine riche en actualité.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Patrick Sébastien était l'invité d'Apolline et il est resté face à Canteloup.
Ben rebonjour, ça me fait tellement plaisir de voir mon vieux pote.
C'est parti, Jérôme Fourquet dit que vous incarnez la France des campings.
Non mais attends, pourquoi tu me parles de camping, ça m'énerve, c'est une caricature.
C'est ça.
Les Français qui me suivent, c'est pas seulement ceux des campings, hein, c'est aussi ceux des mobilhomes, hein, des camping-cars, des caravanes avec les gypsies. Hein, voilà. Non, moi ce que je dis, alors c'est urgent, faut renverser la nappe et changer la table.
Non, c'est le
faut renverser la nappe, faut changer la table. Bon, voilà, faut renverser la table sans changer la nappe. Et ça, c'est pas possible.
Samedi après-midi, les locaux d'RMC et de BFM TV ont été la cible d'une alerte à la bombe. Le bâtiment on revient sur ces événements avec Vincent Moscato, que vous aurez reconnu.
Oh, l'alerte à la bombe. Oh putain, l'alerte à la bombe. Je me suis fendu la gueule tout le week-end. Les mecs de BFM, tu vois qu'ils font les éditions du week-end, ils le savent, Texer, Marshall, ils le savent. C'est que des planqués, tu vois, le week-end. Il semble qu'il n'y a pas d'actu le week-end, ouais. Donc ils font le week-end, tu vois. Tu les aurais, putain, là, ils passent la journée à la machine à café, tu vois, les mecs, les gosses. Et là, putain, alerte à la bombe, là. Oh putain, alerte à la bombe. Tu les aurais vu étaler dans les couloirs comme s'il y avait une équipe d'All Black au cul, quoi. Dans les escaliers de secours, t'as des gosses, ils se sont fait flasher à 200 km/h avec des centres d'organes dans le slip, non. Tu vois. En plus, les flics.
On n'avait pas le slip.
Les flics, ils étaient super chauds, les flics, tu vois. À l'endemain des attentats du 13 novembre, anniversaire, tu vois, les mecs, ils étaient super chauds, ils ont des boulets avec 15 clébardes des mineurs qui te reniflent les couilles comme les chiens truffiers, tu vois.
C'est quand même normal qu'on ait pris toutes les mesures de sécurité.
Ah ben, parlons-en de la sécurité, putain. La fouille pour entrer ce matin, il a vécu Patrick, la fouille, t'as vu la fouille, tout le monde à poil sur le trottoir. Les mecs ont sorti le badge en disant non, nous c'est bon, on est dans la direction, tu vois. Tu vois les Caranoni, les Renards, les Nedjari, tu vois. Et ben non, les flics, que dalle. Ils ont dit, ils s'embranlent du badge. Ils ont dit, tout le monde, une main devant, une main derrière, penchez-vous en avant, éternuez. Le premier qui avait une pince épilée ou un demi-cure-dent, c'était considéré comme une arme blanche et tu partais direct à la santé à bouffer des danettes à la pistache et Sarko.
Emmanuel Macron était avec Volodymyr Zelensky hier. Monsieur le Président, la France a vendu 100 Rafales à l'Ukraine.
Vous me faites sourire, Apolline. Vous êtes naïve. Oui. Vous pensez vraiment, chère Apolline de Malherbe, que l'Ukraine a les moyens de nous acheter 100 avions avec leur pays en ruine et,
j'avoue, j'avais un doute.
Et leur billet de banque en papier crépon. Ah, non. Ça, nous acheter des Rafales, ils veulent bien, les Ukrainiens. C'est pour nous les payer. Ils sont là beaucoup moins chauds. Et puis, moi, je veux dire une chose, chère Apolline de Malherbe, je n'ai pas envie de leur offrir mes Rafales. En 4 ans, nous, la France, nous avons quand même donné pour 20 milliards de matos, que du militaire et du haut de gamme. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça? À regagner 2 pâtés de maison à Mariupol et 3 hectares de champs de patates dans le Donbass. Donc, moi, je vous le dis franchement, cette fois-ci, je vais être payé par l'Ukraine et je veux des garanties.
Alors, c'est d'ailleurs pour l'instant juste une lettre d'intention.
Oui, ben, ça, c'est juste une lettre d'intention, vous avez bien raison. Là, on est juste au début. Puis je peux vous dire qu'avant de livrer, Volodymyr, je vais lui demander son RIB, sa pièce d'identité, un justificatif domicile et ses 3 bulletins de salaire.
Oui,
les 3 derniers.
Et puis,
je vais vous dire une chose, je ne fais pas de crédit, je le tiens à Volodymyr. C'est pas la peine qu'il mette son t-shirt vert pour jouer au gars de ses télèbres.
Le gouvernement veut regrouper toutes les aides sociales en une allocation unique pour économiser des frais de gestion. Tiens, François Ruffin est avec nous. Vous en pensez quoi, François Ruffin?
Apolline de Malherbe.
Oh oui, c'est vous.
Fusionner, comme ça, les allocations, ça va créer du chômage. Pourquoi? Je vous explique. Avant, avec un seul chômeur, on arrivait à faire vivre 6 fonctionnaires. Jean-Michel, celui de la CAF, Hervé, celui de la mairie, Gisèle qui remplace Bernard quand il est en arrêt maladie. Je pense aussi à Jean-François qui discute toujours avec Jean-Michel de la CAF, sans oublier bien sûr Jocelyne qui dit toujours « Ah bel dossier de Monsieur Martin, je sais pas où ça en est, demande plutôt à Jean-Pierre ». Et Jean-Pierre Indispensable qui dit toujours « Je crois que c'est Sébastien qui s'en occupe ». Vous vous rendez compte qu'on est en train de détruire tout cet écosystème? Alors je le dis et je le redis, ça suffit.
Jean Lassalle poursuit son one-man show sur les scènes de France. Bonjour Monsieur Lassalle, comment ça se passe cette tournée?
Ne soyons pas modestes.
Non, c'est
un triomphe. Certains, vous savez, Mme Valère, M. Dexter, M. Demange, M. Guége, M. Danchin, certains me comparent déjà à Jean Roucas.
Ah oui.
À Guy Montagnier. Bah, au grand Fernand Reynaud. Les blagues n'ont plus de secret pour moi. Je vous sens gourmand. En cette matinée, il faut le dire, une matinée un peu plombée, j'ai envie de dérider les sourires de chacun d'entre vous. Allez-y. En humaniste que je suis. Et je vous fais un petit échantillon. Pourquoi Jésus ne pouvait pas jouer au football le jour de Pâques?
Je ne sais pas, monsieur Lassalle.
Parce qu'il était suspendu.
Oh,
voyez, ça, c'est de la blague imparable. De la blague imparable. Et le vin plein air, sans OGM, une blague bio, nourrie au grain.
Ah, oui.
En un mot, c'est du label rouge.
Ah voilà.
Et j'en ai une autre.
Ah, bah, oui,
j'en ai une autre. J'en ai une. Tiens, je vous en fais une en impro. Tiens, une en impro comme ça pour vous personnaliser. Pourquoi l'homme qui est à côté de moi, qui s'appelle Monsieur Marshall, hein? Vous savez pas pourquoi? Parce que comme dans tous les bons westerns, il arrive toujours en dernier quand tout est fini, que tout le monde est mort de rire. Voilà, vous l'avez compris, je suis le Coluche des Bois, le Thierry le Luron des Clairières, le Florence Forestier.
C'est très bon.
Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi à 8h50 et absolument quand vous le voulez en podcast avec l'application RMC bien entendu. Bonjour Alain Marchal.
Bonjour mon cher Mathieu, bonjour à tous.
Au programme des GG Alain.
Eh bien dans les grandes gueules, dans un instant nous reviendrons sur les propos du chef d'état-major des armées, largement critiqué notamment dans la classe politique. Mais finalement, est-ce qu'il a tenu le langage de vérité de Général Mandon? Vous venez en parler avec les GG au 32-16. Le Sénat qui augmente la TVA de 5,5 à 20% sur les petites bouteilles d'eau minérale, tiens encore une taxe. Les salariés de la BNP qui vont quitter le nord de Paris parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Il y a pourtant 18 vigiles qui accompagnaient les salariés dans ce quartier de Paris qui, c'est vrai, n'est pas des plus sécures. Et puis on reparlera de ce que veut faire Sébastien Lecornu, donner une prime de 500 euros au maire, et nous recevrons Nicolas Dupont-Aignan. Voilà le programme des grandes gueules.